18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous, bienvenue, ravie de vous retrouver pour votre grand journal du soir. C'est parti, jusqu'à 20h, à la une de l'actualité ce soir, le professeur Raoult aurait administré de la chloroquine à ses patients sans leur consentement formel. Révélation du canard enchaîné ce matin et réponse de Didier Raoult dans un instant dans votre journal, Sébastien Krebs.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
18h20, le confinement est-il à l'origine de milliers de morts par cancer en France? C'est en tout cas ce qu'affirme le professeur Jean-Yves Blais, président de l'association Unicancer. Il est mon invité dans 20 minutes. 18h30, les grandes voix ce soir. Catherine Ney de retour parmi nous, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Ils reviendront ensemble sur le rassemblement hier soir pour Adama Traoré et puis bien sûr la jonction qui est faite parfois avec ce qui se joue aux États-Unis. Et puis à 19h30, journée spéciale impôt sur Europe 1. On poursuit ce soir et on conclut d'ailleurs sur l'antenne avec nos experts. Ils vous aident à remplir vos déclarations, toutes vos questions. Ça se passe au 39-21. N'hésitez pas. Vous connaissez le programme du soir. On écoute ensemble Monde Changé. Ça se passe jusqu'à 20h sur Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
La question, savoir si c'est les malades, ça sert à faire de la recherche, ou s'il faut les soigner. Moi, j'ai dit qu'il fallait les soigner, que c'était plus le temps de la recherche, c'était le temps de les soigner. Moi, j'essaie de faire les choses selon ma conscience.
Le professeur Raoult, accusé d'avoir administré de la chloroquine sans le consentement de ses patients, il répond ce soir sur Europe 1 aux affirmations du canard enchaîné.
Et cela au moment même où la revue The Lancet prend ses distances avec l'étude qu'elle a elle-même publiée sur ce traitement. Les détails, hein, parce qu'il faut essayer d'y voir clair, c'est dans quelques secondes.
Le préfet de police de Paris saisit la justice après la manifestation interdite organisée hier soir par les proches d'Adama Traoré. Le gouvernement appelle à l'apaisement et promet d'être intraitable contre le racisme.
Je suis sur ce sujet intransigeant. S'il y a faute, elle doit être sanctionnée et elles sont sanctionnées.
Christophe Castaner tout à l'heure, l'affaire Traoré, elle tourne à la bataille d'experts.
Dans ce journal également, retour dans l'un des berceaux de l'épidémie en Europe, Milan.
Ces derniers jours, les Milanais ont commencé à sortir. Peu à peu, la confiance revient.
Et l'Italie a rouvert ses frontières. Et puis la cohabitation de plus en plus compliquée en ville. Vélo, trottinette, voiture, attention, la mortalité des piétons est en hausse. La Bourse de Paris poursuit sa remontée et passe les 5000 points, plus 3,3%.
Bonsoir Anissa, le ciel avec vous.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Et bien pour demain, le programme, il n'est pas réjouissant. Beaucoup d'orages, des orages violents sur une grande partie de la France, des pluies très soutenues dans le sud-est et des températures en nette baisse. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Il continue de déchaîner les passions. Le professeur Raoult a été signalé à la justice par l'un de ses confrères. C'est ce qu'affirme le canard enchaîné. Il aurait administré le traitement qu'il défend, l'hydroxychloroquine, à ses patients, mais sans leur consentement. L'ordre des médecins est saisi et ce soir, l'infectiologue marseillais répond à votre micro, Nathalie Chevance.
Oui, c'était dans son bureau à l'IHU tout à l'heure, en petit comité, et le professeur Raoult ne s'est pas dérobé à la question sur les accusations dont il fait l'objet. Alors c'est vrai qu'un signalement est parvenu le 3 avril à la procureure de Marseille. Accusation d'un professionnel de santé dont on ne connaît pas l'identité, qui affirme que deux études cliniques publiées par l'IHU en pleine épidémie n'ont pas respecté le cadre légal. En clair, de l'hydroxychloroquine aurait été prescrite à des malades du Covid sans qu'ils le sachent, en tout cas sans avoir recueilli un consentement libre et éclairé, ce qui peut constituer une infraction pénale. Alors le professeur Raoult a-t-il quelque chose à se reprocher? Voici sa réponse.
On verra bien, il faut laisser le faire autour de la justice. Après, ça, la question, savoir si c'est les malades, ça sert à faire de la recherche, ou s'il faut les soigner. Moi, j'ai dit qu'il fallait les soigner, que c'était plus le temps de la recherche, c'était le temps de les soigner.
Mais est-ce qu'il savait qu'il prenait de l'hydroxychloroquine?
Ah, monsieur.
Vous êtes serein?
Ah oui, bien ma nature. Écoutez, moi, j'essaie de faire les choses selon ma conscience. Ouais, je m'en fiche, ça va. Moi, j'ai tous les portraits de ma famille ici, vous savez, c'est eux qui me regardent avec l'air mauvais si je fais une bêtise. Et donc, c'est plus ça qui m'intéresse que l'air du temps, je m'en fiche.
Alors, le parquet de Marseille s'est tout de même rapproché de l'Agence nationale de sécurité du médicament pour évaluer les faits, mais à ce stade, aucune décision n'a été prise. Enquête préliminaire ou classement sans suite.
Voilà pour cet entretien du professeur Raoult avec Nathalie Chevance, notre correspondante à Marseille.
Et ce nouvel élément, il intervient à un moment où la bataille continue autour de ce traitement, l'hydroxychloroquine, mise en cause notamment par une étude publiée par The Lancet, la revue qui est à présent rétropédale, Virginie Salmen.
Oui, la direction du Lancet a émis une mise en garde vis-à-vis de l'étude publiée dans ses colonnes le 22 mai qui suggérait une surmortalité des patients traités avec cette molécule, associée ou non à un antibiotique, et une recrudescence d'accidents cardiaques. Ça n'est pas encore un retrait de l'article, mais beaucoup de scientifiques le réclament. Il y a deux critiques essentielles. D'abord, la méthode de l'étude. Ça n'est pas la plus solide, on ne part pas de patients tirés au sort à qui on donne un médicament pour vérifier son efficacité. Là, c'est une société américaine spécialisée dans le traitement des données, Surgisphere, qui dit avoir aspiré les dossiers médicaux de 96 000 patients dans environ 700 hôpitaux dans le monde, donc des données brutes plus difficiles à interpréter. Et puis des erreurs, notamment de codage d'hôpitaux, ont été décelées. Par exemple, les 73 morts d'un pays ont été attribués à l'Australie où il n'y a eu que 67 morts. L'auteur principal de l'étude, le professeur Mandeep Mehra de l'école de médecine de l'université de Harvard aux États-Unis, s'est retourné vers la société de traitement de données Surgisphere pour lui demander des explications de façon urgente.
Voilà, des incertitudes. Et pourtant, on se souvient que l'OMS et la France s'étaient basés sur cette étude précisément pour suspendre les essais sur ce traitement. Est-ce que cela va changer leur position ?
Eh bien, pas pour l'instant. En France, les autorités sanitaires ne font marche arrière ni sur la prescription de l'hydroxychloroquine à l'hôpital, ni sur la suspension des essais cliniques. Et puis à ce stade, pas d'annonce non plus du côté de l'OMS.
Virginie Salmen du service Société d'Europe 1. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a lancé les travaux de sa commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise. Le Sénat lancera la sienne à la fin du mois. Un premier rapport a été publié par des députés. Il pointe les faiblesses de la France, insuffisance des stocks de masques, notamment gestion de l'approvisionnement et suivi insuffisant des EHPAD.
Il est 18h05 sur Europe 1. La suite du journal, Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Et l'autre grand dossier du jour, ce sont les suites de cette manifestation hier soir organisée par les proches d'Adama Traoré, ce jeune homme mort en 2016 après son arrestation.
Sa famille est convaincue que les gendarmes en sont responsables. On verra dans un instant ce que disent les différentes expertises. Hier soir, 20 000 personnes ont participé à ce rassemblement qui était interdit. 18 interpellations après les heures qui ont suivi. Et ce soir, le préfet de police saisit la justice pour demander à poursuivre les organisateurs.
Et une affaire qui prend une tournure politique. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a été forcé de répondre aux accusations de racisme portées contre les policiers.
Il faut faire en sorte que chaque faute, et il peut y en avoir, chaque accès, chaque mot, y compris des expressions racistes, fasse l'objet d'une enquête, fasse l'objet d'une décision, fasse l'objet d'une sanction. Et je suis sur ce sujet intransigeant, parce que l'exigence que nous avons vis-à-vis des policiers qui fauteraient, c'est garantir justement la sérénité du travail de l'ensemble de la police et de la gendarmerie. C'est garantir la défense de cette police républicaine qui, au quotidien, combat le racisme, combat l'antisémitisme et s'engage au quotidien pour défendre l'honneur de la République. S'il y a faute, elle doit être sanctionnée et elles sont sanctionnées.
Les promesses de Christophe Castaner tout à l'heure au Sénat. Il n'y a pas de violence d'État, martèle la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. Beaucoup de manifestants, eux, faisaient bien le parallèle hier avec ce qui se passe aux États-Unis. Écoutez cet éducateur en banlieue parisienne.
Quand j'entends dire que les violences policières en France, ça n'existe pas, ou que le racisme dans la police, ça n'existe pas, j'ai juste envie de dire à nos représentants, s'il vous plaît, parce que nous, on le vit, on le subit, on en souffre, on en pâtit. On vous demande juste de nous considérer. Pas mieux que d'autres, mais pas moins bien que d'autres. C'est plus facile de parler des États-Unis que de parler de ce qui se passe en France. Mais malheureusement, ce qui se passe aux États-Unis, nous aussi, on y a le droit ici. La brutalité qu'il y a là-bas, on y a le droit aussi.
Boubacar, un éducateur de Gennevilliers, il répondait à Théo Manval.
On va y revenir longuement avec les grandes voix à 18h30. Hein. Mais arrêtons-nous un instant sur cette affaire Adama Traoré, Sébastien, qui a déclenché la manifestation. Depuis 4 ans maintenant, de nombreuses expertises ont été menées sur les causes de sa mort.
Hein. Plusieurs ont écarté la responsabilité des gendarmes. Mais la famille a rendu public hier soir une contre-expertise qui les met en cause, Guillaume Bié.
Oui, ces conclusions sont catégoriques et sans nuance. Pour le professeur de médecine qui signe cette contre-expertise, Adama Traoré est mort à cause du plaquage ventral, sous-entendu exercé par les gendarmes qui l'ont arrêté. Aucune autre cause du décès n'est identifiée, écrit le médecin. Alors c'est la deuxième fois que la famille d'Adama Traoré fait réaliser une contre-expertise qui va à chaque fois dans le même sens, celle défendue par ses proches, et qui va à l'encontre des autres expertises. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis 4 ans dans ce dossier, il y a déjà eu 2 autopsies et 4 rapports d'experts désignés par la justice, 11 médecins différents, légistes et spécialistes. Aucun d'entre eux n'a jamais clairement établi qu'Adama Traoré était assurément mort, écrasé sous le poids des gendarmes, comme sa famille en est convaincue. Le seul point sur lequel tous les médecins sont d'accord, y compris ceux désignés par ses proches, c'est que le jeune homme a succombé à une asphyxie. Mais due à quoi ? D'après la dizaine d'experts, ce serait à cause de multiples raisons médicales, alors que le médecin mandaté par la famille balaye les hypothèses de tous ses confrères.
Les précisions de Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1. Aux États-Unis, à présent, les manifestations ont continué. Hier soir, malgré les couvre-feux à New York et Los Angeles notamment, mais avec moins de violence. Ce soir, le ministre américain de la Défense se dit opposé au déploiement de l'armée. C'est pourtant exactement ce que réclamait Donald Trump. Trump qui dément dans une interview s'être réfugié dans le bunker de la Maison-Blanche vendredi. C'était juste une visite d'inspection, dit-il.
Europe 1. Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
À suivre dans votre édition de 18h, notre tour d'Europe du déconfinement débute ce soir. Jean-Sébastien Soldaini est à Milan pour Europe 1, là où tout a commencé.
Et puis attention, la mortalité des piétons est en hausse dans les villes.
18h10 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
C'est bien là que l'épidémie a commencé en Europe. L'Italie, 33 000 morts, l'un des pays les plus endeuillés, a rouvert ses frontières aujourd'hui même.
Nouveau symbole de ce déconfinement qui se poursuit à travers l'Europe. Les Italiens sont aussi à nouveau autorisés à se déplacer entre les différentes régions. La vie reprend, y compris à Milan, qui, on se souvient, s'était confiné bien avant nous. C'est là que vous vous trouvez, Jean-Sébastien Soldaini.
Oui, sur la Piazza del Duomo, devant la cathédrale de Milan et sa façade de pierre aux découpes millimétrées. En revanche, pas besoin de précision pour se déplacer sur le parvis. Faible affluence, les glaciers et les vendeurs de souvenirs sont assis. Et Francesca tient un petit kiosque au pied de la cathédrale, sans client.
Ces derniers jours, les Milanais ont commencé à sortir. C'est pour prendre un peu d'air et peu à peu, la confiance revient, même si certains ont peur. Il fallait qu'on sorte de cet enfermement. Mais c'est difficile de voir cette place comme ça. Normalement, il y a cette affluence à 8h du matin, pas en fin d'après-midi. Je ne l'ai jamais vu comme ça à cette heure-ci.
Ce qui marque ici, ce sont les mesures sanitaires très respectées, au contraire de Vintimille où je me trouvais hier. On sent que la ville a été marquée par cette épidémie. Il faut aussi accepter certaines contraintes en entrant dans les établissements. Prise de température, feuille d'émargement pour remonter éventuellement jusqu'à vous en cas de contamination. La reprise se fait lentement dans cette ville, poumon économique du pays. Et c'est là tout l'enjeu de savoir si la Lombardie va vite retrouver son activité.
Jean-Sébastien Soldaini en direct de Milan ce soir. Et on vous retrouvera à travers l'Europe dans les jours qui viennent pour raconter ce déconfinement.
L'Autriche maintenant, qui lèvera ses contrôles aux frontières demain, sauf avec l'Italie justement. Et puis la Belgique ouvrira les siennes avec les pays européens. Rendez-vous pris le 15 juin.
L'ouverture au tourisme européen qui se dessine plus largement. L'Allemagne a prévu de lever ses mises en garde pour les voyages à cette même date du 15 juin.
Et on va conclure avec un chiffre qui nous appelle tous à la prudence. La mortalité des piétons en ville est en hausse.
Ce sont les chiffres 2019 de la sécurité routière qui l'indiquent et ce n'est pas sans lien avec notamment la multiplication des trottinettes, des vélos qui s'ajoutent aux scooters et aux voitures. Des moyens de transport justement pris d'assaut en cette période de déconfinement. Mathieu Bock, vous l'avez constaté à Paris, ça donne une cohabitation parfois compliquée et même dangereuse dans les rues et sur les trottoirs.
Oui, à ce carrefour de la rue de Crimée, par exemple, vous avez 4 pistes cyclables, 5 trottoirs, 2 routes et 3 feux rouges pour réguler tout ça. Sous le soleil de cet après-midi, les cyclistes, les piétons, les trottinettes, les voitures et les scooters tentent de se frayer un passage. Sylvie et Anne-Marie habitent juste à côté. Ces deux retraitées se tiennent par le bras. Elles ne se promènent plus seules désormais.
Moi, dans des endroits comme ça, je ne viens pas toute seule. Hein, je viens accompagnée.
C'est plus difficile de sortir. On a un peu plus peur aussi. Avant, il y avait moins de monde déjà, donc on risquait moins.
Beaucoup plus de cyclistes qu'avant, c'est le constat de Clara, qui se déplace à vélo depuis toujours.
C'est vrai que depuis le déconfinement, il y a des embouteillages de vélos. Hier, c'était un vrai embouteillage, quoi. J'ai attendu à un feu pendant quelques secondes. Moi, j'ai tendance à être énervée après les gens qui prennent des vélos du genre Vélib, parce qu'ils ne regardent pas pour s'engager, et du coup, c'est hyper dangereux. Mais par contre, c'est vrai que la haine des voitures se fait un peu plus ressentir, même s'il y a moins de circulation dans Paris.
Mais Clara préfère en sourire. C'est une bonne chose, après tout, s'il y a plus de vélos à Paris, dit-elle.
Mathieu Bock pour Europe 1.
Merci beaucoup Sébastien Krebs. On reste prudent évidemment à vélo, en trottinette et bien sûr en automobile. On se retrouve à 18h30 avec un nouveau journal. Beaucoup de pluie à Nice dans le sud-est demain.
Et effectivement Nathalie, demain matin sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, il pleut. Attention hein, si vous nous écoutez dans ces régions, ces averses seront accompagnées d'orages et on attend un cumul de pluie assez important. Il va pleuvoir très fort mais uniquement le matin puisque ces pluies elles vont se décaler vers l'Italie à la mi-journée.
le temps va donc se dégager. Mais sur les côtes varoises, sur la Corse et le Languedoc, c'est le vent qui se renforce dans l'après-midi. Alors du Pays Basque à l'Alsace, sur une grande diagonale française, le ciel est encore bien chargé, avec en Alsace, en Auvergne et en Occitanie des orages parfois violents. Et puis en Bretagne, sur les Pays de la Loire, la façade atlantique, la Normandie, les Hauts-de-France et puis le nord de la région parisienne, là le ciel est nuageux avec des averses qui seront beaucoup plus rares dans ce secteur. C'est là finalement que vous aurez la plus belle journée demain. Les températures, elles sont en nette baisse. Alors le matin, ça se maintient. Nous aurons 10 à 15 degrés demain matin, mais dans l'après-midi, c'est nettement plus frais. Écoutez bien, nous aurons 15 degrés à Dunkerque, 19 degrés à Nancy, Lorient et Paris. C'était des valeurs que nous avions le matin, hein, il y a quelques jours. 20 à Nice et La Rochelle, 21 à Besançon, 22 à Toulouse, 24 à Avignon. Et la maximale, elle est prévue pour Nice avec 25 degrés.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy, avec votre invité dans un instant.
Et c'est un des effets collatéraux du coronavirus, baisse des consultations et prise en charge tardive des patients atteints de cancer. On en parle avec mon invité ce soir, le professeur Jean-Yves Blais, directeur du Centre d'oncologie Léon Bérard à Lyon. Il est mon invité dans deux minutes sur Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Et vous recevez à présent le professeur Jean-Yves Blais, qui dirige le Centre d'oncologie Léon Bérard à Lyon et président d'Unicancer.
Bonsoir professeur, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1.
Bonsoir.
Vous alertez aujourd'hui sur l'effet collatéral du Covid-19 à cause de prises en charge trop tardives. Vous redoutez 5 à 10 000 décès directement liés au coronavirus, des patients atteints de cancer. Comment établissez-vous ce calcul ?
Alors en fait, ce calcul a été établi par nos collègues britanniques qui ont observé la même chose que ce que nous observons dans notre pays, qui est une diminution au cours du mois de mars et du mois d'avril du nombre de nouveaux consultants pour cancer dans les établissements d'Unicancer, donc les centres de lutte contre le cancer et donc dans tous les établissements, avec une réduction qui va varier de 20 à 50% en fonction des établissements et des pathologies. Et les conséquences qui en découlent sont en fait assez simples. Le délai de prise en charge, de diagnostic et de début du traitement est en général associé dans la quasi-totalité des cancers avec une augmentation du risque de rechute et de décès. Et nos collègues britanniques ont calculé que ce décalage, qui dans leur pays est très comparable au nôtre, allait aboutir, dans des hypothèses qu'ils qualifient eux-mêmes d'optimistes, à un excès de décès lié strictement au cancer, hein, donc pas au Covid, mais indirectement au Covid, de 6 à 9 000 cas.
Mais alors, donc, si on vous comprend bien, lorsque l'on parle de cancer, de cette maladie, professeur, c'est pas chaque semaine qui compte, mais bien chaque jour.
Alors, ça va évidemment dépendre des types de tumeurs. Il y a des cancers qui vont évoluer rapidement et pour lesquels, très souvent d'ailleurs, les gens n'ont pas attendu la fin du confinement pour venir consulter. D'autres évoluent plus lentement, voire vont évoluer de manière très peu symptomatique et ne vont pas nécessairement attirer l'attention. C'est peut-être sur ceux-là qu'il faut porter notre attention parce qu'ils sont peut-être plus nombreux dans la population générale. Juste rappeler que chaque mois en France, il y a environ 30 000 nouveaux diagnostic de cancer, et que si donc on a 15 000 cancers qui ne sont pas diagnostiqués ou qui sont en retard de diagnostic, l'impact va être évidemment très important.
Alors justement, soyons concrets, quels sont les cancers les plus concernés ?
Alors, c'est à peu près tous les types de cancers chez lesquels on a observé cela. Les cancers les moins concernés, je dirais, c'est ceux qui ont évolué tellement vite où la présentation était suffisamment inquiétante pour le patient pour qu'il consulte tout de suite. C'était évident dans ces cas-là qu'il ne pouvait pas attendre les quelques semaines du confinement. Mais en fait, dans tous les types de cancers, on va pouvoir observer des formes relativement indolentes qui poussent rapidement, d'autres qui évoluent de manière très rapide. Bien entendu, c'est dans les deux qu'on craint d'avoir un effet péjoratif du délai, et c'est pour les deux qu'il faut désormais consulter sans délai.
Alors, consulter sans délai, très bien, mais les potentiels patients sont encore un peu fébriles à l'idée de retourner dans les cabinets, dans les centres de radiographie, etc. Comment les sensibiliser ? Comment communiquer sur les dangers que vous mettez à jour aujourd'hui ?
Alors, je pense tout d'abord qu'on est clairement dans une période post-confinement où le risque de contamination par Covid, par le virus du Covid-19 est très faible. Et venir dans un cabinet médical, dans un hôpital, n'est pas associé à un risque accru. En fait, c'est même probablement plutôt le contraire, dans la mesure où les mesures de protection, de barrières ont été très tôt mises en œuvre dans les centres de lutte contre le cancer, en particulier dans tous les établissements, parce que tout simplement, on sait que ce sont des patients particulièrement fragiles. Donc, il n'y a pas de risque à venir, il n'y a pas de risque à venir, il y a du risque à attendre et à différer des consultations auprès des médecins traitants ou des radiologues ou des médecins spécialistes pour procéder au diagnostic.
Donc ça, évidemment, c'est un appel que vous passez en quelque sorte ce soir pour dire à la population, aux potentiels patients, venez. La Ligue contre le cancer a par ailleurs alerté face à l'augmentation de la consommation de tabac pendant le confinement. Est-ce qu'on doit s'attendre à une augmentation de cancer liée au tabagisme qui pourrait directement être imputée à cette période de plus de 2 mois ?
Alors, lié au tabagisme accru sur une période de 2 mois, je ne crois pas. Malheureusement, c'est des expositions qui sont plus longues, qui sont significatives. Quoique chaque durée additionnelle d'exposition augmente intrinsèquement le risque de manière statistiquement détectable. En toutes les états de cause, c'est sûr que le tabac est une priorité majeure et que ça fait également partie des sujets qu'il va falloir traiter désormais.
D'autant qu'on a quand même des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Depuis le début de la crise sanitaire, les ventes de tabac sont envolées, enregistrées une hausse de 25%. C'est pas anodin, 25%.
Ça n'est pas du tout anodin. Il va surtout falloir, de même qu'ils vont revenir dans les cabinets médicaux et dans les hôpitaux, il va falloir arrêter de fumer. Oui.
Les risques de contamination au coronavirus dans les centres de cancérologie, vous les écartez. Donc aujourd'hui, vous nous dites les gestes barrières sont là et sont clairement respectés. La recherche contre le cancer, elle a pris un coup dans l'aile, si je puis me permettre cette expression. Elle a aussi été ralentie à cause du virus. Dans quelle mesure
La recherche a été impactée pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'un certain nombre de promoteurs d'études, qu'ils soient académiques, c'est-à-dire en gros des universités, des centres de lutte contre le cancer, des CHU, ont arrêté l'ouverture des études, c'est-à-dire que les patients ne pouvaient plus être inclus. Et puis la même chose pour des promoteurs pharmaceutiques. Donc on ne pouvait tout simplement pas mettre ou proposer des patients à des études parce que les études n'étaient pas ouvertes. Mmh. Et puis, d'une manière générale, l'attention était portée plus particulièrement au Covid. Alors il y a eu de la recherche clinique dédié aux patients atteints de cancer à risque de Covid qui s'est développé, mais globalement on a observé effectivement une chute de la recherche clinique dédiée. Alors ce n'est pas uniquement en France, hein, oui, c'est dans tous les pays sur le globe.
Qui va être difficile à rattraper ou dont on peut imaginer que malgré tout c'est rattrapable, c'était pas nécessairement évidemment en 2 mois que les choses se modifient.
Qui va être rattrapable? Alors, est-ce qu'on aura certainement un creux si on fait la somme sur l'année 2020, mais les activités redémarrent actuellement. Donc, on peut être assez confiant pour dire que toutes les études vont réouvrir et vont pouvoir proposer aux patients leur médicament.
Ouais. Est-ce un paradoxe, docteur Jean-Yves Blais? Pas de surmortalité enregistrée chez les malades d'un cancer atteint du Covid-19?
Alors, c'est quelque chose qui est débattu, comme vous l'avez vu dans la littérature.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Ce que l'on peut dire, globalement, les patients atteints de cancer en cours de traitement pour leur cancer, qui présentent une maladie active et ou une maladie métastatique, sont à risque au même titre que les patients qui ont une surcharge pondérale, hypertendue et tous les facteurs de risque que l'on connaît bien. Ils sont probablement parmi les plus à risque. Tout le monde s'accorde pour dire ça, puisque la plupart des études, qu'elles soient chinoises ou occidentales, rapportent un risque de décès des patients atteints de cancer en cours de traitement dans les 30 jours, qui est voisin de 10 à 20%. Mais on ne parle ici que d'une petite fraction des patients atteints de cancer. La très grande majorité sont venus consulter pour leur diagnostic de Covid et sont rentrés chez eux pour être suivis. Oui. Donc, globalement, des précautions particulières parce que ce sont des populations à risque, mais on ne doit pas différer la consultation.
Bien sûr. Merci beaucoup Jean-Yves Blais, professeur, de nous avoir répondu sur Europe 1. Et donc, il n'y a évidemment que des risques à attendre. Donc, allez évidemment vous faire dépister. Voilà la mise en garde et évidemment le conseil important à respecter. Merci beaucoup.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
Les grandes voix, elles s'apprêtent à s'installer dans ce studio. Catherine Ney de retour parmi nous ce soir, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. On va revenir ensemble sur l'immense rassemblement hier soir à Paris pour Adama Traoré. Et vous pouvez intervenir, leur poser vos questions au 3921. Europe 1.
18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Et votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
L'Organisation mondiale de la santé va reprendre ses essais cliniques sur l'hydroxychloroquine après les réserves émises sur l'étude publiée par The Lancet. La revue a pris ses distances avec ses conclusions qui pointaient les dangers du traitement. Sur Europe 1 ce soir, le professeur Didier Raoult nie catégoriquement avoir administré ce médicament à certains de ses patients sans leur consentement. Accusation évoquée par le Canard enchaîné qui révèle que l'infectiologue a été signalé à la justice.
Le message du pape François face aux émeutes américaines, nous ne pouvons ni tolérer ni fermer les yeux sur aucune forme de racisme, dit-il. Ce soir, l'ONU dénonce par la voix du haut commissaire aux droits de l'homme, de la commissaire Michelle Bachelet, le racisme structurel aux États-Unis et l'agression sans précédent contre les journalistes. En France, le préfet de police de Paris saisit la justice et demande des poursuites contre les organisateurs de la manifestation interdite qui a eu lieu hier soir à l'appel des proches d'Adama Traoré. Le gouvernement appelle à l'apaisement. Christophe Castaner promet des sanctions pour chaque mot raciste dans la police. L'application mobile Stop Covid en tête des téléchargements en France sur les smartphones, 600 000 entre hier et ce matin. Bon démarrage, dit le gouvernement, mais cela reste tout de même très faible par rapport à la population. Pierre Moscovici devient le président de la Cour des comptes. Sa nomination a été officialisée aujourd'hui en Conseil des ministres. Et puis la sélection du Festival de Cannes dévoilée ce soir. 50 films, pas de montée des marches ni de projection sur la croisette. Ils sortiront en salle avec un label Cannes 2020. La liste est dévoilée en ce moment même avec notamment François Ozon, Wes Anderson et Steve McQueen. On vous dit tout dans le journal de 19h.
Ah mais absolument, on sera au rendez-vous, on vous attend Sébastien. La météo Anissa avec des orages nombreux demain, attention.
Prudence. Oui, des orages sur une grande partie de la France. En fait, seuls la Normandie, la Bretagne, les Hauts-de-France et la région parisienne ne seront pas touchés par ces orages, tout comme la façade atlantique. Partout ailleurs, le tonnerre va gronder demain et attention sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, on attend des pluies très soutenues demain avec des cumuls très importants dans le sud-est. Ces pluies vont se calmer à la mi-journée. Les températures, elles se maintiennent le matin. C'est encore doux avec 10 degrés à Rodez, 12 à Montluçon, à Laval, à Lorient, à Paris, 14 du côté de Carcassonne, 15 à Biarritz et 17 à Lyon pour le matin. Et alors dans l'après-midi, ça baisse bien avec seulement 18 à 25 degrés.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et comme tous les soirs jusqu'à 19h, vos grandes voix avec ce soir Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Et bien sûr, toutes vos questions, toutes vos réactions au 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Bonsoir à vous les grandes voix et un bonsoir particulier à Catherine que j'ai
bonsoir
le plaisir de retrouver
Nathalie.
Ce soir. Bonsoir, bienvenue dans ce studio.
Bonsoir.
Bonsoir Charles, Gérard, bienvenue.
Bonsoir.
Vous avez tous suivi ces images hier soir en pleine affaire George Floyd aux États-Unis, le cas d'Adama Traoré qui fait un retour remarqué dans l'actualité en France avec hier soir un rassemblement fort de 20 000 personnes pour répondre au comité de soutien de ce jeune homme noir. On va écouter d'ailleurs la sœur d'Adama Traoré, c'était hier soir.
Aujourd'hui, quand on se bat pour George Floyd aux États-Unis, qui est notre frère, on se bat pour Adama. Ce qui se passe aux États-Unis a mis aujourd'hui en lumière ce qui se passe en France. Toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, vous êtes en train de lutter.
Voilà, ce son, évidemment, cet extrait sonore très fort qu'on a entendu plusieurs fois dans la journée. Le dossier continue évidemment à faire largement réagir. Catherine Ney, est-il de bon ton aujourd'hui de faire ce parallèle entre cette situation en France, cette affaire qui date d'il y a 4 ans et évidemment les événements aux États-Unis ?
Je crois que c'est difficile de comparer exactement la violence de la police américaine dont très régulièrement on nous dit qu'elle tue un jogger qui est en train simplement de courir et tout ça. Ils ont la gâchette facile dans un pays qui est très violent, dans un pays où la police n'est pas du tout nationalisée comme en France, mais il y a des polices selon les villes, selon les États, et ça dépend des villes où là donc et quand même l'assassinat de peut-être de délinquants, est quand même quelque chose d'assez régulier. Je crois que plus de 1300 chaque année, non, je crois que c'est de cet ordre-là. Bon, et souvent, des gens qui sont arrêtés au faciès, quelquefois, on les prend sur le vif en train de commettre un méfait. Donc, il y a une culture de la violence qui est régulière aux États-Unis et qui choque moins qu'en France, où il y a peut-être eu des cas, c'est vrai, qui n'ont peut-être, au dire des défenseurs des droits de l'homme, peut-être pas assez été sanctionnés. Mais quand on dit que la police n'est pas sanctionnée, la police qui fait 10% du service public, des états du service public, eh bien c'est 50% des condamnations. Et je veux dire, les condamnations sont quelquefois très lourdes. C'est une police en France qui est quand même contrôlée, mais c'est vrai qu'il y a eu des cas récent où on s'est dit que peut-être...
Qui pose question. D'ailleurs, Charles Villeneuve, l'affaire a pris d'emblée une tournure politique avec les propos de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui a été forcé de répondre aux accusations de racisme portées immédiatement contre les policiers.
Bon, l'affaire Adama Traoré a 4 ans, en effet, ce sont les gendarmes qui sont accusés de l'avoir par la famille et surtout par l'animatrice du comité Adama Traoré, sa sœur dont vous venez, qui a tout de suite politisé l'affaire, et aussi l'un de ses frères. Il faut savoir que c'est une famille assez spéciale. Sur 12 membres de la famille, vous en avez 10 qui ont affaire à la justice depuis des années. Bon. Et idem d'ailleurs Adama Traoré lui-même. Or, deux, si vous voulez, une expertise de réclamée par le parquet et une contre-expertise, puisque la première expertise innocentait, disculpait les gendarmes en disant il n'y a eu aucune violence. En réalité, il est mort d'une crise cardiaque, puisqu'il était cardiaque.
Et d'autres expertises, donc, des contre-expertises.
La famille a demandé une contre-expertise. Évidemment, les avocats ont choisi leurs experts. Qui ont dit, il a été plaqué de manière brutale, etc.
Il est mort sous le poids des gendarmes.
Aucun témoignage de la contre-enquête montre qu'en réalité, il n'a été violenté. Et c'est la contre-expertise réclamée après l'expertise de la famille par le parquet, disculper à nouveau les gendarmes. Et depuis, d'ailleurs, la question, moi, je trouve qu'il faut se poser par rapport à la manifestation d'hier, c'est comment se fait-il qu'il y ait eu 20 000 personnes pour une manifestation qui, d'ordinaire, rassemble 2 000 à 3 000 personnes ? Si vous voulez, dans les banlieues, même les banlieues choc en général. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple le rapport du service central de renseignement territorial et qui vous décrit ce qu'est le comité, ce qu'est devenu le comité qui rassemble, si vous voulez, des gens des quartiers choc, comme ils disent, c'est leur du groupe Action antifasciste Paris banlieue, des salafistes d'un certain nombre de régions. Auxquels adhèrent, s'agrègent, si vous voulez, des sympathisants sincères, évidemment, et aussi un peu quelques membres de la gauche chic et culturelle.
Vous voulez dire que donc il y a eu des appels qui ont été entendus et supposés en tout cas.
Oui, non, mais ce qu'il faut ajouter, c'est que les consignes du ministère de l'Intérieur étaient d'y aller mollo, si j'ose dire, puisqu'il y a les Black Blocs qui se sont mêlés à tout ça et qui étaient là, évidemment, pour essayer de provoquer la police et d'établir de facto un parallèle avec la situation américaine.
Alors, Gérard Carrérou, votre regard sur cette affaire, parce que le parallèle, il continue d'être établi et on n'en a pas fini.
Bah, écoutez, je vois bien que l'extrême-gauche en France a voulu faire son miel de ce qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont sauté, évidemment, sur l'occasion pour essayer... Les États-Unis étant ce qu'ils sont, Catherine l'a rappelé, la tradition de violence étant ce qu'elle est, et le racisme date depuis effectivement de deux ou trois siècles, depuis l'esclavage. Donc ils se sont donc précipités pour faire cette manifestation qui a eu beaucoup de succès. D'ailleurs, c'est ça qui est d'ailleurs le plus inquiétant, c'est de penser qu'on peut comme ça, en quelques heures ou quelques jours, rassembler dans une manifestation interdite 20 000 personnes, ça promet de beaux jours. Et j'ai entendu ce matin un des syndicalistes de police dire « Attention, le feu couvre en banlieue ». Mais ce que je veux dire à propos justement de l'Amérique, c'est je trouve ça quand même extraordinaire. Le monde entier est en train de dire « L'Amérique, quel pays horrible, etc. » Je constate quand même à ce soir, ça, je peux être démenti dans l'heure qui vient, mais que jusqu'à ce soir, il y a eu 8 jours de manifestations extrêmement hard, on peut dire.
Avec
hard,
encore un couvre-feu ce soir.
Encore un couvre-feu ce soir à New York, où il n'y en avait pas eu. Mais il y a eu 0 mort. Vous n'avez pas vu... Trump dit « Attention, parce que s'il y en a qui continuent à piller, on va tirer dessus. » Sauf que personne n'a tiré. D'ailleurs, ni d'un côté ni de l'autre, donc, et qu'il y a eu beaucoup de scènes de non-violence.
Oui, mais la rage ne retombe pas, Gérard.
Attendez, la rage ne retombe pas, je ne dis pas que le problème va retomber, mais je dis simplement qu'avant de donner des leçons, quand je vois les Chinois, quand Tiananmen, ils devraient penser un peu à Tiananmen, ou les Iraniens, qui sont en train de donner des leçons de morale internationale, parce qu'en Amérique, il y a eu une malheureuse, et c'est terrible, une horrible bavure policière, mais ce n'est au départ rien de plus, et quelle que soit l'idée qu'on a de Trump, Trump n'est en rien responsable de l'assassinat de ce pauvre garçon de 45 ans.
Mais a posteriori, il a pas hésité à en rajouter. On en a déjà parlé, on va y revenir. Restons ensemble, évidemment, parce que ce sujet est important, on continue d'en discuter avec les grandes voix dans une seconde.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h.
Et une auditrice qui a une question à vous poser à vous, les grandes voix. Alice Marie, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On revient bien sûr longuement ce soir sur ce cas d'Adama Traoré en parallèle avec l'affaire George Floyd. Vous avez une question?
Oui, moi j'avais effectivement une question pour les grandes voix. On s'aperçoit que la classe politique américaine s'empare de la question des violences policières et de l'insécurité aux États-Unis. Est-ce qu'en France, ça là, pourrait devenir un des enjeux de la prochaine campagne présidentielle?
Bah, ma réponse à moi, elle est non. Elle est non, parce que honnêtement, il n'y a pas en France suffisamment. Alors s'il y avait, Dieu sait qu'il y en a peu, et fort heureusement, et c'est vrai, je suis d'accord pour une fois avec le ministre Castaner, que la plupart du temps, les bavures policières donnent lieu à des licenciements, des flics sont virés et d'autres sont condamnés, et heureusement, il en est ainsi. Donc je ne crois pas que ça deviendra...
Et on peut même dire que l'inspection générale de la police nationale punit très férocement.
Sauf à l'extrême gauche, on fera campagne, évidemment, la France insoumise.
Les juges, la justice ne fait aucun cadeau.
Et les policiers, d'ailleurs, se sont très vite emparés de l'affaire là, Adama Traoré, en disant non, il n'y a pas de parallèle à établir parce que nous, les policiers français, on a tout de suite condamné ce qui s'est passé outre-Atlantique pour George Floyd. Et évidemment, ce type de situation extrême, c'est interdit en France. On ne travaille pas comme ça et on ne l'a jamais fait.
La question aussi, implicitement, il y a une autre question, une sous-question. C'est que la violence, notamment, telle qu'elle est provoquée, allumée, je remarque que le comité Adama Traoré est devenu un levier d'action politique en permanence. On n'oublie pas quand même que les gendarmes ont été attaqués, notamment à Grenoble, dans leur propre caserne, et qu'il y a plusieurs actions violentes contre les gendarmes. Ça n'est pas seulement, si vous voulez, dans le cadre de revendications par rapport à la manifestation d'hier. Sauf que les banlieues, si vous voulez, ont leur loi, de plus en plus, qui n'est pas celle de la République. Et ça peut devenir un sujet politique pour la présidentielle de 2020.
C'est l'inverse. Oui, autrement dit, c'est pas parce qu'il y a multiplication en France des bavures policières que ça deviendrait un sujet de la campagne. Non. Je crois pas. Mais par contre, c'est un sujet d'ores et déjà dans la vie politique française que d'avoir des espaces de non-droit où nos policiers sont attaqués systématiquement avec, on l'a vu il y a plusieurs
jours. Et le comité
de soutien
à Traoré, il est en tête de toutes les manifestations violentes. Ça a été des gilets jaunes, elle était devant les Black Blocs et pour demander justice, réparation, elle essaie de récupérer.
Mais qu'est-ce que vous répondez quand même les grandes voix à ces voix qui disent justement il faut aussi plus de considération, moins de brutalité dans les banlieues? On entendait un éducateur tout à l'heure en banlieue le dire, il y a beaucoup de voix comme ça qui disent voilà, quand même, les faits sont là et ça, on peut pas tourner le dos.
Mais les faits aussi sont aussi de l'autre côté.
Non, mais réponse
là,
à ça.
Moi, je veux bien devenir l'avocat, si vous voulez, des agresseurs, des délinquants et de tous ceux qui provoquent la plupart des violences, justement. On l'a vu, ça a frôlé des véritables accrochages très violents durant la consigne, si vous voulez, de rester chez soi. Bon, il y a eu des problèmes. Et ça aussi, il ne faut pas oublier que les policiers, sur ce plan-là, et les gendarmes, ont un travail extrêmement difficile. C'est vrai qu'il y a des dérapages. Ils sont punis. Ils sont punis sévèrement. Ce n'est pas le cas de l'autre côté.
Oui, je suis d'accord avec ça. C'est trop facile de faire campagne sur les violences policières. Ça, d'ailleurs, ça a toujours été un des tartes à la crème de l'extrême-gauche, les violences policières. Et je pense qu'en France, aujourd'hui, et fort heureusement, ce n'est pas un sujet de campagne. Mais par contre, le sujet des quartiers ou sans loi est un sujet de campagne.
Voilà, c'est dit. Catherine, un mot à ajouter? On se retrouve dans un instant. On se retrouve dans un instant. Alors Catherine Ney, Charles Gérard, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou. Ah ben, c'était obligatoire. A tout de suite sur Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h.
La crise économique, évidemment, on la voit venir, on en parle depuis le début du confinement. Le gouvernement a gravé hier sa prévision de récession en 2020 avec une chute du PIB qui pourrait atteindre moins 11%. Gérard Carrérou, on se prépare à une dette qui va durer un siècle.
Ce qui est le plus terrible, c'est qu'on voit, en fait, c'est un mur. C'est pas une crise, c'est un mur économique et social qui se dresse devant nous, devant le gouvernement, mais aussi devant les Français. Effectivement, vous avez rappelé, je voulais rappeler trois chiffres, vous en avez rappelé un, vous avez rappelé celui du produit intérieur brut, on disait on va faire moins 8. on va faire moins 8, on va faire moins 11.
Ça a été réévalué.
Et rien ne dit que ça ne sera pas encore pire. Et... le budget, le déficit du budget, révisé par Darmanin, à 220 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 220 milliards d'euros. La sécurité sociale, poste extrêmement important, surtout après la pandémie, la sécu est enfoncée dans le rouge de 52,2 milliards. On n'a jamais vu ça. Même après la crise, si vous voulez, économique de Sarkozy.
Mais donc là, de toute façon, pendant le confinement, on avait parlé de la crise de 29. C'était voilà, celle-là à laquelle
exactement.
On parlait.
Donc on est devant ce mur. Et alors, face à ce mur, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, en plus, il y a aussi un phénomène incroyable. C'est que l'État, pour la première fois, l'État dans une démocratie qui n'est pas un pays communiste, l'État, aujourd'hui, est l'employeur de 15 millions de Français. Il était déjà l'employeur de 6 millions de fonctionnaires ou assimilés, auxquels se sont rajoutés environ 9 millions de gens qui sont au chômage partiel. Est-ce que vous imaginez? Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Imaginez que l'État paye 15 millions de Français, c'est-à-dire plus de la moitié de la force de travail du pays. Donc comment s'en sortir? Je voudrais bien, moi, effectivement, qu'on me donne quelques recettes. Et parce qu'on dit récupérer, par exemple, en France... Je prends juste un exemple, peut-être Charles en prendra d'autres, mais l'exemple des médicaments. On dit, oh là là, c'est épouvantable, on a vu à travers cette pandémie qu'on n'était même pas capable de pouvoir avoir assez de nos médicaments. Dès le début, il a manqué un certain nombre de produits, je parle pas des masques, hein, je parle des médicaments pour traiter les gens qui étaient en réanimation, etc. Les médicaments les plus simples, on les a plus parce qu'ils sont fabriqués en Inde, etc. Comment reconquérir notre capacité à produire? Et je parle pas de l'automobile ou de l'aviation.
Alors justement, Catherine, Charles, on parle de relocalisation. En a-t-on seulement les moyens de toute façon de relocaliser? Est-ce que ça peut être une sortie de crise d'une manière ou d'une autre? Et quels sont vos
grands laboratoires pharmaceutiques comme Sanofi qui sont toujours implantés en France, qui ont des usines, peuvent tout à fait relocaliser certaines, notamment le Doliprane, des choses comme ça, qui vont le faire, mais créer une nouvelle usine. Vous voyez, c'est d'abord ça se décide pas comme ça, ça va être très très difficile. Tous les produits qu'on achète aujourd'hui qui sont made in China, je veux dire, dans le quotidien, vous voulez acheter une ampoule, il n'y a plus une fabrique en France qui fabrique des ampoules. Donc si vous avez une panne d'électricité, tout ça vient de Chine par container. Donc on est totalement dépendant des Chinois. Et ce qui est terrible, c'est qu'on voit quand même une chose, c'est que l'absence de travail, c'est le drame. C'est le travail qui crée la richesse d'un pays. Or, aujourd'hui, quand un patron, même pendant ce confinement, ose dire qu'il va falloir travailler plus, aussitôt les syndicats sont montés au créneau pour dire « mais c'est un péché, mais comment on peut demander ça aux Français? Ça sera inacceptable. » Lorsque une ministre commence à dire que peut-être pendant un certain temps, pour que les entreprises, les salaires pourraient être un peu diminués, aussitôt les syndicats ont dit « mais il n'en est pas question ». Donc, un pays se redresse, il faut des dirigeants qui aient une vision, une vista, et non pas toujours le quoi qu'il en coûte. Alors, parce que là, c'est l'argent magique, ça sort de partout, comment ça va s'arriver? Mais si vous avez des gens qui étaient bien confinés, qui ne veulent pas travailler, qui dès qu'on leur parle de travail, c'est comme si on leur parlait d'un péché mortel. Je veux dire, tout le monde doit s'y mettre et trouver et acquérir un nouvel esprit de solidarité et de courage aussi.
Charles Villeneuve, vous êtes optimiste.
Non, mais moi, je crois... Enfin, on va savoir très vite si on a affaire à une confrérie de bras cassés, si vous voulez, ou si, comme De Gaulle par deux fois en 1945 et en 1958, on va relancer la France pour la reconstruire en s'appuyant sur les politiques et pas sur la bureaucratie et pas sur un nouveau comité Théodule. Parce que vous savez qu'après les mandarins scientifiques, voilà qu'il y a un comité, si vous voulez, d'économistes, des mandarins économistes qui se constituent autour du chef de l'État. Alors le chef de l'État, il faut qu'il s'imprègne, je trouve, moi, puisqu'il est allé à Montcornet pour célébrer la bataille de Montcornet où De Gaulle a résisté à une offensive légère, il faut le reconnaître, de blindés allemands, eh bien de prendre le képi du général et de faire ce qu'il a fait justement en 1945, en 1958, s'imprégner du message, si vous voulez, du futur maréchal Foch, au moment où toute la France était donnée perdante par toute l'Europe dans la première bataille de la Marne. Mon centre cède, ma droite recule, c'est une excellente nouvelle,
situation que moi, je vais renverser, j'attaque.
D'accord,
mais le chef de l'État,
concrètement.
Charles, tu veux le message churchillien.
Oui, churchillien.
Du blood, sweat and tears. Hein, yes, du sang,
oui, d'accord, mais concrètement,
de
alors.
De la sueur et des larmes.
Oui. Mais ça passe pas à quoi ça,
pour compléter ce que dit.
Oui, mais
Catherine,
attention, parce que n'oubliez pas qu'il doit s'appuyer aussi sur sa jambe sociale. Oui, c'est oui, tout oui, l'enjeu oui, aussi de cette devenir partie.
Mais qu'est-ce qu'il fait en ce moment si c'est pas du social? Écoutez, le chômage partiel à 85% et même 100%, mais il n'y a aucun pays qui ne fait ça. On est le seul pays.
Il faut reconnaître quand même que l'État a consenti beaucoup d'efforts sur le plan de l'argent, près de 500 milliards. Il y a plus le plan européen, 500 milliards d'euros, qui va servir surtout d'abord à l'Italie et à l'Espagne plutôt qu'à la France. Mais la France aussi va se servir. Et donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il faut demander un effort considérable à toutes les composantes de la société, aussi bien civiles que travailleuses qu'économiques. Mais il n'empêche qu'il y a un moyen. Il ne faut pas oublier que la France s'est toujours relevée. Toujours, elle a quand même un certain talent, la France. Il faut faire confiance à ce talent.
Moi, ce qui me fait très peur, vous voyez, c'est qu'on a eu la révolte des Gilets jaunes. C'était quoi, les Gilets jaunes? C'était des gens qui gagnaient peu, mais qui travaillaient un peu, mais qui ne travaillaient pas assez. Ce n'était pas des chômeurs, pas forcément. Il y avait des retraités, mais il n'y avait pas forcément des chômeurs. Et ils étaient là tous les dimanches, parce que justement, ils ne travaillaient pas le samedi ou le dimanche, et ils étaient à Paris. Mais là, quand vous allez avoir 1 million de chômeurs en plus, voyez, des gens qui, pour vivre au quotidien, eh bien, regretteront le temps d'avant, et même quand ils avaient peu, qu'est-ce qui va se passer? Comment, quand, je veux dire, ça va créer des problèmes.
Je te rappelle la phrase du général, « Vieille France allant et venant de la grandeur au déclin, mais redressée de siècle en siècle par le génie du renouveau. »
Ce choc du chômage, de toute façon, il arrive, on le sait, il est né dans ce confinement, le choc du chômage qui se redresse, mais un choc aussi sur la génération des jeunes, parce que forcément...
Il y a des gens qui font mauvaises nouvelles pour essayer...
Charles, il y a des gens qui font croire. Ils ont inventé... l'expression, d'ailleurs, je l'avais noté parce que je trouvais ça magnifique, l'hélicoptère. L'hélicoptère, c'est-à-dire en disant, il faut, en fait, ça y est, le moyen de s'en sortir, c'est de balancer de l'argent, comme si on le jetait d'un
Nicolas
hélicoptère.
Nicolas Pérez a fait toute 300, une chronique
300
là-dessus.
Euros par citoyen européen. Mais où est-ce qu'il va payer ça? On se moque de qui, là?
C'est bien, le sujet, exactement. Merci, on y reviendra. On y reviendra parce que ça vous a mis ce sujet. Évidemment, et ça va être évidemment le gros sujet des prochaines semaines. Merci à vous, les grandes voix. À demain.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
Et dans un instant, c'est le journal complet de Sébastien Krebs, bien sûr, en direct. Et pour revenir sur les éléments au sujet de l'affaire Traoré et des manifestations d'hier soir.
Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Nous, on est inquiets parce qu'on a conscience des difficultés financières énormes que rencontrent un certain nombre de personnes qui ont dû être aggravées par la crise.
Les alertes se multiplient. Le gouvernement face à la crise sociale, comment préserver l'emploi et accompagner les plus précaires? Syndicats et patronats planchent à l'Élysée demain.
Quelle réponse aux accusations de racisme et de violence dans la police? L'exécutif entre apaisement et fermeté.
Dans ce journal de 19h, on se projette sur demain. Demain en France, 3 clubs de Ligue 1 devant le Conseil d'État pour tenter de revenir sur l'arrêt du championnat.
Bientôt un champ d'éoliennes en pleine mer. Ça se passe au large de Fécamp.
Et demain dans le monde, l'Amérique latine menacée par l'épidémie alors qu'elle entre dans l'hiver. Enfin, le festival de Cannes sans monter des marches. Mais les grands noms du cinéma sont bien là. La sélection 2020 vient d'être dévoilée.
Anissa, le ciel. Très gris demain puisque les nuages qui ont envahi le pays aujourd'hui apporteront des orages demain, des orages parfois très violents, soyez très prudents. Et puis dans le sud-est, demain on attend des cumuls de pluie très importants. Je vous donne tout le détail à la fin du journal. Europe 1. Écoutez le monde changer. Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Les mises en garde se multiplient au-delà des chiffres inquiétants de l'économie. C'est une crise sociale profonde qui s'amorce au lendemain du déconfinement. Demain, le sujet sera au cœur d'une réunion qui va rassembler à l'Élysée l'ensemble des syndicats et organisations patronales autour d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Comment préserver l'emploi et accompagner les plus fragiles?
La dernière alerte en date est venue du médiateur national de l'énergie. Les procédures pour un pays ont bondi déjà en 2009, Élise Dangean.
Oui, en 2019, plus 17
7%, c'est 100 000 interventions de plus que l'année précédente, des réductions, voire des coupures complètes d'énergie. Et c'est surtout le chiffre le plus important jamais relevé par le médiateur national de l'énergie. Alors là où la situation est la plus compliquée, c'est pour l'électricité. Et pour cause, les prix ont augmenté l'an dernier. Le médiateur note également un durcissement des politiques de recouvrement de certains fournisseurs qui peuvent résilier un contrat et donc couper l'électricité ou le gaz dès le premier impayé. Et même si pour le moment, les particuliers sont protégés par la trêve hivernale prolongée jusqu'au 10 juillet en raison de la crise sanitaire, cela ne va pas durer, rappelle Frédéric Ferriot, directrice des services du médiateur national de l'énergie.
Il va y avoir quelques mois pendant lesquels, effectivement, les fournisseurs vont pouvoir demander des interventions, des coupures d'énergie. Donc nous, on est inquiets parce qu'on a conscience des difficultés financières énormes que rencontrent un certain nombre de personnes qui ont dû être aggravées par la crise. Maintenant, on espère que les fournisseurs vont être bienveillants et peut-être plus souples.
Alors, certains fournisseurs s'y sont déjà engagés, mais pour d'autres, notamment les nouveaux entrants sur le marché, pas facile de faire preuve de souplesse, car eux aussi connaissent des difficultés financières liées à la crise épidémique.
Élise Dangean et le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, Louis Gallois, plaide, lui, pour une hausse des aides sociales et des impôts.
Et elle sera demain dans cette réunion à l'Élysée avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, à 19h20, mon invité. Et 19h30, on continue à parler impôts, évidemment, sur cette antenne. 19h30, 20h. Appelez-nous, posez-nous toutes vos questions des invités pour y répondre.
Et demain, dans la matinale d'Europe 1, le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, sera l'invité de Sonia Mabrouk et Mathieu Belliard, 8h15. Puis il vous répond au 39-21 avant d'aller participer lui aussi à cette réunion à l'Élysée.
La manifestation était interdite, elle a entraîné des troubles hier soir à Paris, on en a parlé avec les grandes voix. 18 interpellations, le préfet de police de Paris a saisi la justice contre les organisateurs, les proches d'Adama Traoré.
Et ce jeune homme mort après son arrestation il y a 4 ans, sa famille a rendu publique une contre-expertise qui met en cause les gendarmes, responsabilité qui avait jusque-là été écartée par plusieurs expertises précédentes. Mais cette affaire fait émerger des revendications plus larges sur la violence ou le racisme présumé des policiers. Là-dessus, Christophe Castaner a promis aujourd'hui des sanctions exemplaires. Adrien Beck, le gouvernement tente de jouer l'apaisement.
Oui, pas question d'alimenter cette colère, pas question non plus de faire le parallèle entre France et États-Unis. On n'a pas la même histoire, pas la même culture, souligne un conseiller ministériel. À l'issue du Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement l'a aussi souligné. La manifestation n'a été interdite que pour des raisons sanitaires et pas politiques. Sibeth Ndiaye qui a voulu calmer le jeu.
Vous le savez, une instruction judiciaire a lieu actuellement et nous faisons toute confiance, sans que cela puisse appeler d'autres commentaires de la part de l'exécutif, dans notre justice, dans la justice de notre pays, pour faire tous les éclairages, les éclaircissements et le cas échéant un procès s'il y a lieu d'être sur cette affaire. Et je crois qu'il faut être dans l'apaisement, savoir raison garder dans une situation qui, on le comprend bien, compte tenu de l'émotion légitime qu'a suscité le décès d'Adama Traoré, est encore très présente dans notre pays.
Il n'empêche, l'exécutif reste vigilant dans un contexte social tendu. Il faut faire attention, ça peut être le calme avant la tempête, souligne un conseiller. Quand un autre en appelle à la responsabilité de tout l'exécutif, il ne faut surtout pas, dit-il, qu'un ministre déconne et jette de l'huile sur le feu.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
C'est un feuilleton sans fin que celui de l'hydroxychloroquine, l'Organisation mondiale de la santé, et c'est tombé il y a quelques minutes, qui avait suspendu ses essais sur ce traitement, va les reprendre.
Oui, et cela après que des doutes ont été émis sur l'étude publiée par The Lancet qui pointait les risques du médicament. Aujourd'hui, la revue a elle-même pris ses distances avec ses résultats.
Et vous l'avez entendu à 18h, le professeur Didier Raoult répond sur Europe 1 aux accusations formulées dans le Canard enchaîné. Il nie, au micro de Nathalie Chevanche pour Europe 1, il nie avoir administré son traitement à des patients sans leur consentement.
Et le Canard enchaîné qui révèle que l'infectiologue a été signalé à la justice, l'ordre des médecins est saisi. Le déconfinement se poursuit à travers l'Europe. L'Italie a rouvert ses frontières. Aujourd'hui, les Italiens ont retrouvé la liberté de se déplacer à l'intérieur du pays, mais ne pourront pas aller en Autriche. Demain, Vienne va lever ses contrôles avec tous les autres, mais pas avec l'Italie. La Belgique rouvrira ses frontières, elle, avec les Européens. européen le 15 juin et l'administration Trump annonce qu'elle va interdire temporairement tous les vols des compagnies chinoises de et vers les États-Unis.
Vous l'avez noté, vous l'avez remarqué, hein, il n'y a plus de foot, hein, sur les terrains. Mais demain, la saison de Ligue 1 se joue devant la justice.
Devant le Conseil d'État, précisément, qui va examiner les recours de trois clubs qui contestent la décision d'arrêter la saison avec de lourdes conséquences pour eux, pour Lyon, privé de Coupe d'Europe, pour Toulouse et Amiens, relégués en Ligue 2. Écoutez le président du club Picard, Bernard Joannin, qui ne veut pas en faire une question d'argent, mais surtout d'honneur et d'équité.
Notre combat aujourd'hui, c'est se battre pour l'égalité, pour l'équité sportive, parce que les circonstances sont exceptionnelles. Parce que dans mon match, je vais essayer de le jouer le mieux possible, avec mes valeurs qui sont importantes, avec nos moyens juridiques qui sont solides. Mais ça, je laisserai plutôt mes avocats, mes conseils vous en parler. Ce n'est pas une question d'argent. On ne veut pas d'argent. On ne demande pas de dommages et intérêts. La seule chose qui compte pour nous aujourd'hui, c'est de faire gagner le sport et ses valeurs. Parce qu'on trouve que les choses ne sont pas équitables.
Le président d'Amiens avec Christophe Lamarre.
Les cinémas, ça y est, ils ont une date, 22 juin, partout en France, avec bientôt des films labellisés Cannes 2020, c'était dans les tuyaux.
Oui, c'est la sélection, sans la montée des marches et les paillettes de la croisette, mais avec tout de même de grands cinéastes. Cette sélection 2020 qui vient tout juste d'être dévoilée. Alors Mathieu Charrier, ça donne quoi ?
Ah, ça donne une belle sélection. Il faut savoir que 2000 films ont été envoyés au comité de sélection cannois. C'est tout simplement un record dans l'histoire de Cannes. On n'avait jamais dépassé cette barre des 2000 films. Et donc, 56 ont été retenus pour être labellisés Cannes 2020, à commencer par le très attendu film de Wes Anderson, The French Dispatch, tourné entièrement à Angoulême et qui est entre la BD, le cinéma d'animation, le cinéma réel, avec un casting de dingue. Autre habitué de la sélection cannoise, François Ozon et son été 85. On a d'ailleurs appris dans la foulée que le film sortirait au cinéma le 15 juillet. Il y a beaucoup de Français hein, d'ailleurs dans cette sélection. Il y a Mai Wen qui sera de retour à Cannes avec son film ADN dans lequel elle joue et évoque son retour à ses racines algériennes. Nicolas Maury, vous savez, le formidable Hervé dans la série 10%, eh bien, il a réalisé son premier film, ça s'appelle Garçon chiffon. Lui aussi a le label Cannes 2020, tout comme Emmanuel Courcol et son film Un triomphe, comédie dans laquelle Cadmerad, qui est pourtant pas très habitué à Cannes, Cadmerad joue un acteur déchu qui va dans les prisons pour apprendre le théâtre aux détenus. Et puis vous savez, Cannes, c'est aussi du cinéma sociétal. Alors il y a Marie Castille Mention Char qui présentera par exemple A Good Man, dans lequel il sera question de genre. Et puis labellisé Cannes 2020 également, Steve McQueen, que le grand public avait découvert avec 12 Years a Slave, sélectionné cette fois avec un film qui raconte le procès de policiers accusés d'harceler les Blacks dans le Londres des années 70. Évidemment, ça résonne avec l'actualité. Enfin, quatre films d'animation sélectionnés cette année à Cannes, dont le très attendu Soul dans l'univers du jazz, réalisé par Pete Docter, c'est le nouveau patron des studios Pixar. Donc voilà, vous verrez ces logos, Cannes 2020 sur les affiches. Évidemment, il n'y a pas de compétition cette année, pas de festival, mais ça permet quand même d'aiguiller nos choix, on va dire, pour aller ensuite les voir dans les salles.
Et pas de palme d'or, ouais, du coup.
Mais Cannes hors les murs, quand même. Merci, merci Mathieu.
Mathieu Charrier, donc, il a retrouvé sa spécialité cinéma, lui aussi.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Et à suivre dans cette édition, on se projette sur demain à 19h. Demain en France, un champ d'éoliennes en pleine mer.
Et demain dans le monde, l'inquiétude qui grandit en Amérique latine où l'épidémie continue de progresser.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Et c'est demain en France dans votre édition chaque soir. Bonsoir Jean-Pierre Montanet.
Bonsoir Nathalie, bonsoir
la
Sébastien.
La situation sanitaire qui se normalise. Alors on reparle de la transition écologique avec ce chantier pharaonique, dantesque, la construction d'un gigantesque parc éolien marin.
Oui, en pleine mer, hein, sur une étendue de 60 km, à une quinzaine de kilomètres des côtes et des falaises de Fécamp, vont surgir des flots. 71 éoliennes, hein, des monstres, hein, 100 mètres de haut, dotées de pales de 75 mètres d'envergure. Entraînées par les vents marins, ce parc offshore d'une capacité de 500 mégawatts doit assurer la consommation en électricité de près de 800 000 personnes. Alors, pas tout de suite, hein, Nathalie, ce chantier hors norme va s'étaler sur 2 ans et demi pour une mise en service prévue en 2023. Investissement colossal, hein, de 2 milliards d'euros engagé par EDF qui a remporté cet appel d'offres. Bonne nouvelle en cette période économique maussade. Ce chantier va créer 1400 emplois. Une usine flambant neuve va sortir de terre d'ici un an au Havre pour construire et assembler ces éoliennes conçues par Siemens Gamesa, un géant germano-espagnol.
Et ça marque aussi la fin d'un interminable feuilleton judiciaire.
Oui, qui aurait pu s'appeler, Sébastien, les pales de la discorde. Et la saison 1 remonte déjà à 2012, date des appels d'offres. Depuis, les parcs marins ont été systématiquement attaqués. Des dizaines de plaintes lancées par des élus locaux, des écolos, des marins-pêcheurs. À les entendre, ces pales massacrent tout en brassant l'air. Le paysage d'abord et l'environnement ensuite. Résultat de cette guérilla judiciaire, beaucoup de retard pour ces chantiers alors que la France est déjà un nain de l'éolien marin en Europe, malgré les trois mers qu'il aborde. Loin derrière la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, avec Fécamp et cinq autres parcs en développement, EDF se réjouit d'entrer dans l'ère de l'éolien marin, enfin dans le vent la France.
Voilà le programme au large des falaises normandes. Merci beaucoup Jean-Pierre Montanet, à demain.
Demain dans le monde à présent, bonsoir Didier François.
Bonsoir.
On va aller en Amérique latine parce que ce continent est en train de devenir l'épicentre de la pandémie de Covid-19. Les statistiques sont catastrophiques et pourtant, pratiquement tous les pays sont en train de se déconfiner.
Eh oui, c'est tout le paradoxe de la situation. L'Amérique latine attaque son déconfinement alors qu'elle n'a pas encore atteint son pic de contamination. Au Brésil, on vient de dépasser aujourd'hui les 30 000 morts et la maladie progresse de manière absolument fulgurante. Et bien pourtant, les deux principaux États, Sao Paulo et Rio de Janeiro, ont décidé de lever la quarantaine à domicile. Même situation au Mexique, malgré plus de 10 000 morts et une progression exponentielle des contaminations, le président Obrador plaide en faveur de ce qu'il appelle la nouvelle normalisation.
Il est indispensable de normaliser petit à petit la production, les activités sociales, économiques et culturelles. Mais je le répète très prudemment.
Voilà, donc prudemment, enfin vous l'avez bien compris, il s'agit ni plus ni moins de relancer l'économie malgré l'épidémie, parce que l'Amérique latine n'a pas les moyens de se maintenir en confinement alors que le reste du monde a commencé sa reprise.
Et c'est la raison, Didier, pour laquelle l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a lancé un appel à l'aide internationale. Hein,
absolument, d'emblée. La situation est catastrophique dans plus d'une dizaine de pays. Le Pérou, par exemple, n'a plus d'oxygène. Il a dû demander une ligne de crédit exceptionnelle au Fonds monétaire international pour 11 milliards de dollars. Le Chili a fait de même pour un montant de 24 milliards. Mais la preuve la plus éclatante, si je puis dire, de l'ampleur de ce désastre, c'est cette décision au Venezuela de Nicolas Maduro et Juan Guaido, les deux ennemis mortels qui revendiquent chacun la présidence. Eh bien, ils ont lancé en commun un appel à l'aide internationale.
Et demain, dans l'hémisphère sud, c'est aussi l'hiver qui commence.
Oui.
On ne sait pas si
donc,
le virus a un aspect de saisonnalité, mais si c'est le cas, ça pourrait encore aggraver la situation. Merci Didier François, à demain.
À demain.
Merci Sébastien Krepp, merci à vous tous. On se retrouve Sébastien à 19h30. Et du côté du temps, Anissa, il va falloir s'y préparer, de fortes pluies dans le sud.
Prudence. Demain en Corse, sur la Provence Alpes-Côte d'Azur, demain matin, les pluies attendues seront très soutenues. On attend des cumuls vraiment très forts. Et en plus, ces pluies seront accompagnées sur les Alpes et en Corse par des coups de tonnerre. Donc on attend des orages assez violents dans le sud-est demain. Alors, Si je peux vous donner une bonne nouvelle au milieu de tout ça, c'est que ça va durer que le matin. Voilà. Ces pluies, elles vont très vite s'évacuer vers l'Italie pour laisser place dans l'après-midi à un ciel plus dégagé et à de belles éclaircies. Mais vraiment, faites attention dans le sud-est demain matin. Faites attention aux inondations dans le Pays Basque, la Gironde, l'Auvergne, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Alsace, sur une très large diagonale qui va couper la France. Et bien là aussi, le ciel est couvert avec parfois, là aussi, des orages violents. C'est vraiment une journée très agitée. Demain, il n'y a finalement que sur le nord et l'ouest, la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France et la région parisienne, que le temps restera calme et sec. Les averses arriveront en fin de journée. Les températures, elles sont stationnaires demain matin, avec 10 à 15 degrés, 10 à Guéret, 12 à Paris, à Rouen, 15 à Biarritz et Strasbourg, 17 à Montpellier. Mais alors, dans l'après-midi, n'oubliez pas la petite veste, parce que ça baisse très fort demain, avec seulement 15 degrés à Dunkerque, Cherbourg et Lille, 18 à Rennes, 19 à Paris et Nantes, 20 à Saint-Étienne et Belfort, 23 à Marseille et 26 la maximale pour Ajaccio. Europe 1. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec l'interview de demain dans un instant.
Oui, on est avec la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, pour réagir parce que demain, elle sera à l'Élysée avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Comment évoquer la suite? Les organisations syndicales et patronales, d'ailleurs, sont au rendez-vous.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et on se tourne vers demain. Demain, elle sera reçue à l'Élysée avec les syndicats et le patronat. Votre invitée ce soir est Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA.
Bonsoir Christiane Lambert.
Bonsoir madame.
Bienvenue, vous êtes évidemment la présidente de la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. Dans quel état d'esprit vous apprêtez-vous à rencontrer demain le président ?
Oh ben, c'est une rencontre qui ne se produit pas souvent. Mais notre dernière rencontre était téléphonique le 27 mars et donc nous avons beaucoup de choses à lui dire, surtout après la crise Covid, notamment suite à ses expressions sur la souveraineté alimentaire qu'il ne faut pas confier à autrui. Nous allons voir si des décisions nouvelles peuvent intervenir.
C'est ça, vous êtes servi entre guillemets parce que ces décisions, cette annonce, ces phrases, cette phrase qu'avait dite le président, elle va évidemment dans votre sens. Maintenant, il va falloir que les actes suivent. C'est ce que vous attendez, c'est ce que vous allez lui demander.
Écoutez, la France n'a pas eu faim. Il n'y a pas eu de pénurie alimentaire. On a manqué de masques, de gel, de curares, de médicaments, de blouses. Personne n'a manqué d'alimentation dans notre pays, ce qui est déjà une chance. Ça veut dire que l'agriculture française est solide, diversifiée, résiliente. Même s'il y a eu des produits en tension, même s'il y a aujourd'hui des produits qui connaissent des crises, que n'allant plus au restaurant, les Français ne mangent plus de canard, de pavés, de rhum steak, de frites, et on a tous ces produits, moins de vin, moins de cidre, moins de bière, et on a toutes ces productions en crise. Mais ce qu'il faut poser comme sujet, c'est qu'est-ce qu'est la souveraineté alimentaire dont a parlé M. Macron ? C'est la capacité d'un pays à nourrir sa population, même en situation de crise. Nous l'avons fait. Par contre, on a aussi fait le constat que sur certains produits, on est importateur net, on est déficitaire.
En fruits et légumes, par exemple, hein, notre taux de dépendance aux importations est de 46%, si mes chiffres sont exacts. Ça veut dire qu'il va falloir investir, Christiane Lambert, dans des plantations, des serres, des vergers. Ça veut dire donc un investissement du gouvernement ?
Un investissement des agriculteurs, d'abord, parce que oui, ce sont les agriculteurs qui investissent. Ça va de soi. Et comme je l'ai dit aux grands distributeurs pendant la crise, où ils cherchaient des fraises à corps et à cri, signez des contrats avec des producteurs, engagez-vous sur des volumes et des prix pour l'année prochaine. Et nous, agriculteurs, on n'aura pas de mal à aller voir notre banquier pour mettre en place les exploitations maraîchères et les serres qui permettent de produire. Car le nœud du problème, c'est la question de la rentabilité des productions. La course au prix bas pendant 40 ans en France, qui a été le sport favori d'un certain nombre de distributeurs et d'hommes politiques, a conduit à perdre des volumes de production et donc à perdre des emplois.
Ça veut dire, vous nous parlez des agriculteurs et des banquiers, mais à aucun moment d'investissement du gouvernement ? Vous n'attendez pas là-dessus de subventions ou évidemment une manière d'avoir des garanties de pouvoir aider ces agriculteurs à faire français, à faire sur leur terre ?
On voit aujourd'hui qu'un certain nombre de secteurs sont aidés. Le secteur automobile, le secteur de l'aéronautique. Et concernant l'agriculture pour la souveraineté alimentaire, le soutien va venir par un plan de relance, nous l'espérons. Parti pour Bruxelles, parti pour la France, nous le demandons pour accompagner justement ces investissements de modernisation. Oui. Nous avons nous aussi des enjeux, comme les autres secteurs, de neutralité carbone en 2050 et de numérique en agriculture. Pour avoir une agriculture intelligente, une agriculture qui est à la fois capable de produire et de respecter l'environnement.
Justement.
Ceci est possible si on est capable de moderniser nos exploitations agricoles et de mieux répondre à l'ensemble des enjeux.
Vous avez justement discuté avec le commissaire européen en charge de l'agriculture. Hein. Vous avez souligné le dilemme entraîné par l'augmentation des exigences vertes pour les agriculteurs et la baisse du budget de la PAC, la politique agricole commune. Le passage à une agriculture verte vous semble réalisable dans cette crise économique actuelle ?
Écoutez, il est réalisable si nous sommes accompagnés. Nous avons déjà fait beaucoup de progrès. D'ailleurs, l'Europe souligne que la France est un pays qui est en avance pour la réduction de ces produits phytosanitaires. On n'entend pas toujours ça en France, donc je me permets de le souligner. Nous sommes prêts à atteindre certains objectifs. Par contre, c'est la neutralité carbone 2050 pour tout le monde. Ça ne peut pas être des échéances beaucoup plus courtes pour l'agriculture. Et ce que je veux aussi dire, c'est que nous sommes prêts à faire des efforts en France et en Europe, mais si en même temps les frontières s'ouvrent à des produits venant d'ailleurs et qui ne respectent aucune règle, comme c'est le cas en ce moment quand des viandes viennent d'Amérique du Sud ou d'ailleurs, ou quand des produits des pommes rentrent de Chine en ne respectant pas les mêmes itinéraires techniques que nous. Donc il faut qu'il y ait à la fois des règles qui sont posées, nous le comprenons, mais un commerce équitable et ne pas mettre les agriculteurs français en situation de déséquilibre, de concurrence avec les autres continents.
Mais Christiane Lambert, souveraineté alimentaire c'est bien, mais comment éviter l'écueil du repli sur soi ?
Nous sommes un pays ouvert. La bonne taille,
on est aussi un grand pays exportateur.
Bien sûr, et c'est pour ça que nous importons aussi. Jamais la France ne produira de thé, de café, de chocolat, de mangue, d'ananas.
C'est ça, notre agriculture n'est pas autonome, on est d'accord.
Voilà, nous importons et nous avons besoin d'importer. Mais nous exportons et nos produits sont attendus. L'Égypte, par exemple, qui est un client historique de la France en matière de blé, a 85 millions d'habitants, c'est plus que la France, mais à une surface agricole cultivable qui est que de 10% de sa superficie globale. Le reste, c'est du désert. Donc on sait très bien que l'équilibre alimentaire mondial, qui évite aussi les migrations de population, les populations qui ont faim quittent leur pays. Donc il faut assurer cette stabilité et nous pouvons y contribuer. Mmh. Voilà pourquoi nous parlons, nous, de souveraineté alimentaire, solidaire, à l'échelle de l'Europe, bien sûr, mais en commerçant de façon équitable avec les autres pays du monde. Et puis, vous le savez, nos vins, nos fromages sont attendus. Nous sommes un pays de gastronomie. Mmh. On ne peut pas priver les autres pays de ces produits-là. Donc, on importe leurs produits. Nous ne sommes pas pour le repli.
Justement, alors, Christiane, vous n'êtes pas pour le repli, mais justement, vous parlez de nos vins, de nos fromages. On a vu aussi que pendant la crise, les ventes des aliments cultivés en France ont décollé, certains en tout cas. Est-ce que l'épidémie, maintenant qu'on a un peu de recul, a été profitable aux agriculteurs français?
En tout cas, elle a été profitable pour mettre en avant l'importance de l'alimentation. Le fait que le président parle de souveraineté alors qu'avant il ne parlait que de montée en gamme, c'était un petit peu la vuittonisation de l'agriculture, quoi. Que le haut de gamme. Tout le monde a un sac à main en France, tout le monde n'a pas un Vuitton. Donc il faut de tout pour manger. Il faut des produits bio, de qualité, il faut des produits d'entrée de gamme. Les Français ont acheté des pâtes, de la farine, du riz, de la semoule. Il n'y a pas plus d'entrée de gamme que ça, et du steak haché.
Oui, mais ils sont aussi allés beaucoup vers le bio, vers les produits frais, etc.
Alors, ils sont beaucoup allés vers les plats préparés et vers les produits de proximité chez les producteurs. Confiance et éviter d'avoir des produits touchés par tout le monde en grande distribution, donc servis par quelqu'un et pour une consommation très hygiénique. Ils ont acheté plutôt du pain sous sac plastique au supermarché que la baguette chez le boulanger. Par contre, le rapprochement avec les producteurs, ça, nous voulons capitaliser. Les producteurs se sont décarcassés. Certains ont fait plus de 100% de chiffre d'affaires. Il faut que ça dure. Et nous souhaitons dire aux Français, consommer des produits français, c'est préserver vos emplois, c'est préserver une alimentation de qualité, c'est préserver des territoires avec des producteurs. Il n'y aura pas d'environnement, il n'y aura pas de paysage, il n'y aura pas de tourisme s'il n'y a pas des agriculteurs partout, même dans les endroits les plus reculés de France. Où il y a de l'agriculture partout dans notre pays.
Un dernier mot, Christiane Lambert. Il y a aussi des secteurs dans votre domaine qui sont en grande difficulté. Lesquels? Parce que ce sera sans doute durable. Et pour lesquels vous appelez demain un soutien de l'État significatif?
Je dirais que les plus en souffrance sont les secteurs de l'horticulture, puisque les jardineries ont été fermées, ils n'avaient plus le droit de vendre. Les fermes équestres qui n'accueillaient plus, les pommes de terre industrie, plus de frites, on ne mange pas de frites à la maison, on les mange au restaurant. Le canard, le pigeon, la caille, le lin, la Chine et l'Italie n'achètent plus de lin pour leurs vêtements, le lin est en panne sèche. Et je pourrais citer bien sûr le vin, le cidre, la bière, le vin qui en plus des taxes Trump a aujourd'hui fermeture de tous les restaurants, tous les salons. Donc retournons manger au restaurant, achetons des produits français, faisons des grillades. Consommer des produits français, c'est préserver son emploi. Tout le monde parle de chômage aujourd'hui. L'industrie agroalimentaire emploie, recrute, et ce sont des emplois bien ancrés dans les territoires.
Voilà ce que vous direz aussi demain au président de la République dans cette réunion autour d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe. Merci beaucoup, Christiane Lambert.
Merci.
Merci à vous.
Europe 1. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Et je vous donne un autre rendez-vous demain, 8h15. Le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui sera l'invité de Sonia Mabrouk. Vous pourrez aussi l'interpeller et lui poser des questions. On reste ensemble de 19h30 à 20h. Journée spéciale sur Europe 1. On vous aide à remplir vos déclarations d'impôts avec nos experts. Ça passe au 3921, hashtag Europe 1. On conclut ensemble, alors précipitez-vous contre vos téléphones pour nous poser les questions. Europe 1.
Il est 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Et votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
L'Organisation mondiale de la santé va reprendre ses essais cliniques sur l'hydroxychloroquine. Après les réserves émises sur l'étude du Lancet, la revue a pris ses distances avec ses conclusions qui pointaient les dangers du traitement. Le premier rapport des députés sur la gestion de la crise et les faiblesses de la France pointaient du doigt insuffisance de stock de masques, manque de suivi dans les EHPAD. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale a commencé ses travaux aujourd'hui. Des milliers de manifestants à Londres en écho au mouvement contre le racisme aux États-Unis et un message ce soir du Premier ministre britannique Boris Johnson à Donald Trump. Le racisme, dit-il, n'a pas sa place dans nos sociétés. Aux États-Unis, après Twitter, c'est le réseau social Snapchat qui déclare la guerre à Trump, l'accusant d'inciter à la violence raciale. Ses publications ne seront plus relayées. En France, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, promet des sanctions pour chaque mot raciste dans la police. Le déconfinement européen, l'Italie a rouvert ses frontières aujourd'hui, la Belgique le fera le 15 juin pour les pays de l'espace Schengen. Enfin, la sélection Cannes 2020, 56 films, pas de montée des marches cette année, mais un label du festival sur les affiches, notamment des films de Wes Anderson, François Ozon ou Steve McQueen.
Merci Sébastien, retour de l'info avec vous demain, 18h. Anissa, les températures en baisse, la petite laine obligatoire.
Ah oui, laine et parapluie demain. Alors pour vous résumer la journée rapidement, les températures sont en chute, vous le disiez Nathalie. Nous attendons de fortes pluies orageuses dans le sud-est demain et des vents violents en Méditerranée. C'est vraiment une journée très agitée. En fait, le temps est piloté par une dépression qui est sur l'Allemagne actuellement et qui nous apporte de l'air froid en altitude et un passage de violents orages. D'ailleurs, en Bretagne, cet après-midi, les orages ont été violents. Nous avons eu des forts cumuls de pluie sur l'Occitanie. Donc grande prudence demain et pas plus de 26 degrés.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy, avec cette journée spéciale. Depuis ce matin, journée spéciale impôts sur Europe 1. On vous aide à remplir votre déclaration d'impôts. On répond à vos questions avec nos experts. Ça se passe au 39-21. N'hésitez pas à nous rejoindre et à poser vos questions également sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Eh oui, alors précipitez-vous hein, si vous avez encore des questions. On est ensemble jusqu'à 20h avec vous, Sébastien Lernoux. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio. Vous êtes journaliste éco parisien. Monsieur Vital Saint-Marc est également avec nous en ligne. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes président du club des fiscalistes de l'ordre des experts comptables Paris-Île-de-France et nos auditeurs évidemment qui nous contactent. Je vais vous poser la première question, Sébastien Lernoux, bête et méchante, mais je pense que c'est toujours bon de le rappeler. En termes de date, on y est, pas loin, 48 heures pour certaines régions. La date butoir, c'est quand? Les dates butoirs d'ailleurs.
Alors, il y a plusieurs dates selon
où vous habitez. Les départements.
Voilà, exactement. Évidemment. Donc, pour les contribuables qui habitent dans les départements de 1 à 19, la date, c'est demain soir minuit.
C'est ça.
Pour ceux qui sont dans le département 20 jusqu'au département 54, la date butoir, c'est lundi prochain, à minuit toujours. Et enfin, pour les autres départements, notamment tous les départements de l'Île-de-France, ce sera jusqu'au jeudi 11 juin à minuit. Donc, il reste encore 8 jours.
Voilà, mais c'est toujours bon de le rappeler parce qu'il est quand même temps de se précipiter.
Et
oui,
une petite précision, Sébastien. Alors il n'y a plus grand monde qui le fait, mais il y a encore une déclaration papier. Et là, pour le coup, c'est une même date pour tout le monde, c'est le 12 juin.
Le 12 juin, la déclaration papier. Mais si, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui nous écoutent qui n'ont pas forcément Internet. Et donc, c'est toujours bien, effectivement, de le rappeler. Vital Saint-Marc, petite question, parce qu'on a eu cette période extraordinaire, dans le sens vraiment insolite et particulière de Covid, évidemment, et de confinement. Est-ce que ça change cette année les choses dans nos déclarations d'impôts?
Alors ça change, oui. D'une part, donc la Direction générale des finances publiques a accordé donc un délai supplémentaire pour certaines personnes. Donc c'est toutes les personnes qui déclarent des revenus dits professionnels, des commerçants, des artisans, des agriculteurs, des professions indépendantes, et toutes les personnes qui doivent déclarer des revenus fonciers, c'est-à-dire les revenus de la location nue. Ces personnes-là peuvent déclarer jusqu'au 30 juin 2020. Donc ça, c'est ce qui, oui, a été apporté par le Covid. Et je dirais, c'est la même chose pour les personnes donc qui déclareront donc l'IFI. Hein, donc ils peuvent avoir jusqu'au 30 juin 2020 s'ils ont par ailleurs des revenus fonciers, des revenus donc de commerçants, d'agriculteurs ou de professions indépendantes.
D'accord. Voilà ce qui a changé. On va prendre un auditeur dans un instant. Je repasse par vous, Sébastien Lernoux. Qu'est-ce qu'on fait pour être tout à fait au cordeau là, dans sa déclaration à remplir, si on a encore une déclaration papier à remplir? Et qu'est-ce qu'on fait, d'ailleurs, si on décide de tout faire par Internet? Quelle est la marche à suivre?
Eh ben, je dirais bien qu'il y a pas mal de contribuables cette année qui n'ont rien à faire, en fait.
C'est ça
la grande nouveauté cette année. C'est la déclaration automatique qui concerne 12 millions de foyers. Sur 17 millions, donc c'est quand même une grande majorité de contribuables, mais en fait, qui n'ont rien à faire, qui ont juste à vérifier que les informations sont bonnes et qui n'ont même pas besoin de l'envoyer. Qui ne dit mot consent. En revanche, si vous avez des crédits d'impôt, si vous avez fait des dons, si vous avez des enfants, si votre situation maritale, familiale a changé, là, il faut se plonger dedans.
Voilà, et là, on peut le faire sur Internet ou sur papier.
Exactement.
Selon, évidemment, mais ça laisse quand même beaucoup hein, de cas, effectivement, qui ont certainement une autre manière de s'y pencher que simplement être en prélèvement à la source. On va justement demander à Antoine comment il procède. Bonsoir Antoine, bienvenue, vous nous appelez de Paris, vous êtes salarié. Et vous avez été mis en chômage partiel, du coup, vous vous questionnez.
Oui, c'est ça. Je voulais savoir si mon taux de prélèvement, il va changer, en fait.
Ah, on ne vous entend pas bien, mais je vais reposer la question parce que je crois que vous voulez savoir, effectivement, si votre taux de prélèvement a changé, étant donné que vous avez perdu en revenus, hein, significativement. Et donc, est-ce que vous avez un moyen de payer moins d'impôts vis-à-vis de cela? Sébastien Lernoux et Vital Saint-Marc pour compléter.
Alors, en fait, le chômage partiel, on est sur donc les revenus 2020. Là, la déclaration d'impôt, ça concerne les revenus 2019. Donc, les conséquences de la crise ne sont pas encore prises en compte. Donc voilà, donc ça ne change rien. En revanche, votre auditeur peut tout à fait, s'il le désire, modifier de lui-même son taux de prélèvement à la source, qui lui est sur les revenus 2020, et aller tout simplement sur son espace personnel.
Mmh. Vital Saint-Mar, c'est finalement assez simple.
Oui, je confirme.
Donc,
oui, c'est assez simple, oui.
Bon. On a d'autres questions, évidemment, d'auditeurs. Marie qui nous appelle de Rennes, depuis Poitiers aussi, on nous interroge, ou encore de Bordeaux. Ça se passe au 3921 avec vos réponses, messieurs. À tout de suite sur Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec une journée spéciale. Depuis ce matin, les spécialistes répondent à toutes vos questions concernant les impôts. C'est une journée spéciale impôts jusqu'à 20h. On vous aide à remplir votre déclaration et ça se passe au 39-21, Nathalie.
Et oui, parce que dans certains départements, plus que deux jours, même pas, plus que quelques heures pour déclarer ses revenus. Donc faites vite. On est avec vous, Sébastien Lernoux, journaliste éco parisien, et Vital Saint-Mar, président du club des fiscalistes de l'ordre des experts comptables Paris-Île-de-France. Marie nous appelle depuis Rennes. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Bienvenue à vous. Vous avez une question, et parce que vous avez aidé, je crois, financièrement votre fils. Hein.
Oui, c'est ça. Donc, alors, en 2019, j'ai aidé mon fils financièrement, donc, parce qu'il a eu une période assez longue de chômage sans droit. Mmh. Donc, je voulais savoir si je pouvais déclarer cette pension et jusqu'à quel montant je pouvais prétendre.
Vital Saint-Mar.
Alors, les pensions, on peut déduire en principe les pensions que l'on a versées dans la mesure où on les verse à une personne qui est dans le besoin. Simplement, lorsqu'on verse des pensions à des ayants droit, le législateur, depuis fort longtemps maintenant, depuis une quarantaine d'années, a plafonné donc les pensions versées. Dans votre cas, madame, si votre fils ne vit pas sous votre toit, vous allez pouvoir déduire un maximum de 5 747 €. Et s'il vit sous votre toit, ça sera un montant de 3 535 €. Voilà. Voilà, donc on déduit, mais la déduction est plafonnée.
Voilà. Donc c'est précis, j'espère que vous avez, Marie, votre réponse. On va poursuivre évidemment avec d'autres auditeurs. Je passe par vous, Sébastien Lernoux. Évidemment, il y a des modifications de taux quand on change parfois d'emploi. Comment on fait? Parce que ce n'est pas toujours lisible. Avec une baisse de revenus, par exemple, de plus de 10%, on peut moduler son taux?
Alors, on peut le faire assez facilement.
Facilement?
Oui, il faut reconnaître une chose à l'administration fiscale, c'est qu'elle a plutôt mis en place des outils assez simples sur Internet, à condition d'avoir son numéro fiscal et son mot de passe, qu'il faut retrouver, main, ouais. Évidemment. Mais après, la démarche est assez simple. C'est en 3-4 clics, c'est plutôt facile. Il faut aussi reconnaître une chose à l'administration fiscale cette année. Elle a fait un grand pas en avant, notamment en aidant les contribuables à ne rien oublier. Notamment quand on remplit en ligne, il y a des petites pop-up qui apparaissent en disant, en fonction de vos situations, attention, là vous avez possibilité d'avoir un crédit d'impôt parce que vous avez un enfant qui est au collège ou au lycée, ne l'oubliez pas, etc. Donc voilà, il faut reconnaître que dans cette période qui n'est pas évidente, au moins l'administration fiscale a plutôt bien joué.
Et il ne faut pas oublier que si on n'est pas dans le bon taux, s'il n'y a pas vraiment cette baisse de revenus, il y a sanction pécuniaire derrière. Donc effectivement, il faut verrouiller ça.
Oui, il faut faire attention, effectivement.
Voilà. On est à Bordeaux avec Didier. Bonsoir, bonsoir Didier.
Bon, bonsoir Nathalie, merci de me prendre à l'antenne. Juste quelque chose de très simple. Bon, je suis retraité d'un certain âge et j'ai une petite nièce qui m'a aidé là, pendant ces dernières semaines pour des différentes, vous savez, pour un petit peu toutes les démarches de la vie courante et l'approvisionnement, si on peut dire. Et bon, elle va toucher une somme, une PCH, m'a-t-elle dit. Elle voulait savoir si c'était imposable ou pas, s'il fallait qu'elle la déclare ou pas.
Alors, Vital Saint-Mar, pour une réponse.
Excusez-moi, j'ai pas compris. Elle touche quoi comme somme? J'ai pas entendu.
Alors, Didier,
Une prestation complémentaire handicapée.
Ah, une prestation complémentaire handicapée.
Voilà.
D'accord. Non, les prestations pour handicapés, donc ça dépend de son taux d'handicap, mais les prestations donc d'handicapés ne sont pas imposables.
Donc, elle est exonérée. Très bien. Donc elle est exonérée, hein. Voilà, c'est ce qu'on comprend. Voilà, Didier, vous avez votre réponse, c'est limpide pour le coup. Sébastien, une autre question pour vous, dans une petite seconde. Il y a quand même une chose que je voulais vous demander, Vital Saint-Mar, sur évidemment les impôts aujourd'hui. Il y a des fausses surprises du prélèvement à la source.
Ah, il peut y avoir des fausses surprises, en effet, oui. Donc, c'est arrivé pas plus tard qu'aujourd'hui, donc chez une de mes clientes. Donc, en effet, il faut vérifier les prélèvements à la source qui ont été effectués. Alors, on a en tête qu'il y a deux sortes de prélèvements à la source. Il y a le prélèvement qui est effectué par un tiers,
lorsque l'on est salarié, lorsqu'on est pensionné, on perçoit donc un revenu net décompté du prélèvement à la source, et le montant du prélèvement à la source est indiqué donc par exemple sur le bulletin de paye que l'on reçoit. Il faut vérifier, donc additionner tous les prélèvements à la source et vérifier donc sur la ligne, alors c'est la catégorie 8, ça s'appelle prélèvement à la source, le montant qui est porté sur la déclaration, vérifier que c'est le bon montant, parce qu'il y a parfois des erreurs qui sont commises. Les erreurs sont commises, c'est qu'en fin de compte, l'administration donc obtient l'information grâce donc à des informations qui sont envoyées par les entreprises. Et parfois, les entreprises envoient une rectification de la déclaration et l'administration, ça lui est arrivé de doubler les montants. Donc, elle peut doubler le montant imposable et doubler donc les montants de prélèvement à la source. Donc, il faut absolument vérifier le montant du revenu qui est porté sur la déclaration et le montant des prélèvements à la source effectués. Et de la même manière, on vérifie également les montants des prélèvements à la source qui sont effectués directement sur notre compte bancaire lorsque, par exemple, on est professionnel indépendant ou lorsque l'on a des revenus fonciers. Il faut les vérifier.
Voilà, des surprises quand même hein, pour certains contribuables. Donc, vérifier. On ne vous le rappellera jamais assez. Anissa, on a une question Twitter ?
Oui, une question d'Anna de Béziers qui concerne les micro-entrepreneurs. Pour ces micro-entrepreneurs, comment faire pour éviter le prélèvement libératoire ?
Alors, Vital Saint-Marc, peut-être pour nous répondre. Alors, question
en fait,
piège ?
Quand on est micro-entrepreneur, ça dépend du revenu que l'on a perçu. Lorsqu'on a, alors, je n'ai plus le montant en tête, mais je pense que le revenu fiscal de référence doit être aux alentours de 50 000 euros. Lorsque l'on a un revenu donc, qui est supérieur à ce montant-là, on n'a pas de prélèvement donc, à la source donc, du régime micro-entrepreneur. On peut opter lorsque l'on a donc un revenu inférieur. Donc il suffit de ne pas opter pour ne pas être donc, assujetti donc, à ce prélèvement. Parce que j'imagine que cette personne-là paye donc, un acompte d'impôt alors même qu'elle a un revenu qui va peut-être générer un montant d'impôt inférieur. Donc il suffit qu'elle n'opte pas.
Voilà. Voilà la réponse simple à notre auditrice sur Twitter. On va poursuivre avec vous Sébastien Lernoux, journaliste éco-parisien, Vital Saint-Marc également, avec d'autres questions. Les revenus Airbnb, c'est vrai ça ? On en parle dans une petite seconde. Qu'en fait-on dans sa déclaration d'impôt ? Voilà une des questions que vous nous posez. À tout de suite sur Europe 1, jusqu'à 20h.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 20h la suite de cette journée spéciale impôt sur Europe 1 depuis ce matin. On vous aide à remplir votre déclaration avec nos experts et vous pouvez nous rejoindre au 3921 ou sur Twitter, hashtag Europe 1, Nathalie.
Oui, avec Sébastien Lernoux, journaliste éco-parisien, et Vital Saint-Marc, président du club des fiscalistes de l'Ordre des experts comptables Paris-Île-de-France. Alors une question depuis Angers. Bonsoir à Georges, bienvenue au 3921.
Oui, bonsoir. Je voulais vous demander comment optimiser une déclaration fiscale avec un complément de revenus d'Airbnb et aussi comment remplir et quelles cases remplir pour appliquer cette déclaration.
Alors, Sébastien Lernoux et Vital Saint-Marc.
Alors, effectivement, pour la case, je laisserai peut-être l'expert comptable répondre, mais c'est sûr que de manière générale, il faut déclarer les revenus qui sont issus de la location sur des plateformes. Tous les revenus ne sont pas pris en compte. De mémoire, si c'est en dessous de 305 euros de revenus, on ne paye pas d'impôt. Et si c'est sa résidence principale, ça doit être à peu près 700 euros et quelques. Donc, il y a plusieurs régimes possibles à choisir. Ça, une fois de plus, je laisserai l'expert comptable répondre là-dessus. Il y a une chose qui est intéressante cette année, c'est que normalement, l'administration fiscale aurait dû pré-remplir les revenus issus de ces locations. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que toutes les plateformes n'ont pas joué le jeu, notamment en communiquant à l'administration fiscale ces fameux revenus.
Vital Saint-Marc, pour compléter et pour éclairer Georges.
Oui, alors donc je confirme donc ce qui a été dit. En fait, il y a deux façons donc de déclarer donc les revenus Airbnb. Vous avez donc le régime du micro et le régime du réel. Donc le régime du réel, je déconseille. Enfin, il faudrait passer par un expert comptable parce qu'il y a un bilan à faire. C'est relativement lourd, mais ça permet de déduire toutes les dépenses que l'on a engagées pour cette activité d'Airbnb. Dans le cadre de ce monsieur, ça pourrait être intéressant parce que c'est sûrement ça peut être la façon d'optimiser. La deuxième façon de déclarer les revenus, c'est la plus simple, c'est le régime du micro. Donc, le régime du micro, ça suppose qu'on va donc déclarer
Dans la catégorie des revenus professionnels, alors la page exacte, je ne l'ai pas en tête, comme ça. Revenus professionnels, il y a marqué BIC, bénéfices industriels et commerciaux, revenus donc location en meublé. Et là, on choisit le micro et on porte automatiquement et uniquement donc le montant des revenus encaissés. Et l'administration va faire donc un abattement donc forfaitaire de 50% du montant donc des revenus. C'est-à-dire si on déclare 30 000, on va être imposé sur 15 000. Et dans le cas particulier des chambres d'hôtes et de meublés de tourisme, l'abattement forfaitaire sera de 71%.
Bon, voilà, c'est complet. Donc, j'espère que vous avez bien pris des notes, Georges. Merci de nous avoir appelé depuis Angers. Je voudrais vous poser une question plus générale, Sébastien Lernoux. Bon, déclaration d'impôt, aujourd'hui, on fait tout par Internet. D'ailleurs, on ne fait plus, puisque c'est prélevé directement à la source. Donc, c'est quoi encore aujourd'hui l'intérêt d'une déclaration d'impôt ?
C'est une vraie question, et c'est une bonne question. D'ailleurs, l'administration fiscale réfléchit à l'idée ou pas de supprimer cette déclaration. Aujourd'hui, elle a encore un intérêt principal, à mon sens, c'est surtout pour les crédits d'impôt. Tous les contribuables qui bénéficient d'un crédit d'impôt ont touché un acompte en janvier, pour les gardes d'enfants, etc. Cet acompte a été calculé sur les crédits d'impôt de l'année précédente.
D'accord.
Et donc, en fait, là, à l'été, l'administration fiscale doit nous donner le reste de ce fameux crédit d'impôt, donc à peu près 40%. Mais pour le calculer, l'administration a besoin de notre fameuse déclaration au printemps pour réactualiser, en fait.
Mais pardonnez-moi, mais quand on est propriétaire foncier, c'est le même combat. On a aussi besoin, de toute façon, parce que les revenus évoluent aussi.
Effectivement.
Donc, c'est la même chose. On a aussi besoin de continuer à avoir une déclaration d'impôt. Ça a encore cet intérêt-là. Non,
mais après, avec le prélèvement, c'est ça aussi un peu l'ambiguïté, c'est que le prélèvement à la source, on est vraiment sur nos revenus en temps réel, alors que notre déclaration, elle a encore un an de retard.
Alors, on va prendre une dernière question. Jean-Baptiste qui nous appelle depuis Poitiers. Bonsoir Jean-Baptiste.
Bonsoir messieurs, dames, bonsoir.
Allez-y, posez votre question.
Donc nous vivons maritalement depuis 30 ans. Ma compagne paye des impôts, moi je n'en paie pas. Est-ce que le fait d'officialiser notre union d'une façon ou d'une autre, sous forme de Pax ou autre, pourrait lui permettre d'en payer moins par exemple?
Alors, Vital Saint-Marc pour la réponse.
Bien sûr, le concubinage n'existe pas en matière de fiscalité, sauf pour la déclaration de l'impôt sur la fortune. En revanche, ce qui existe en fiscalité du revenu, c'est le mariage ou le pax. Donc, si vous vous paxez avec votre compagne, bien évidemment, donc vous allez faire une déclaration de deux personnes. Et donc, elle va bénéficier du fait que vous avez des revenus plus faibles qu'elle.
Voilà, vous savez ce qu'il reste à faire, Jean-Baptiste de Poitiers. On va conclure. Je voudrais juste regarder avec vous, Sébastien Lernoux, parce que 5 milliards d'euros, hein, c'était le chiffre annoncé, cette baisse de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes. Une baisse qui a laissé pas mal de questions en suspens, qui, à aujourd'hui, donne quoi ?
Bah, après, l'impact, il est réel parce que effectivement, depuis janvier, pas mal de contribuables, comme vous le disiez, de la classe moyenne, ont pu voir une réelle baisse d'impôt, en sachant qu'il y a à peu près un contribuable sur deux qui paye l'impôt sur le revenu. Donc, c'était pas négligeable. Après, la question, c'est est-ce que le gouvernement va nous reprendre dans d'une main ce qu'il nous a donné dans l'autre ? C'est que là, on voit bien qu'avec la crise économique qu'il va falloir d'une manière ou d'une autre financer, c'est comment est-ce qu'on va payer tout ça ? Pour l'instant, le gouvernement martèle qu'il n'augmentera pas les impôts. En même temps, à presque mi-mandat, l'inverse eût été étonnant. On verra. Il y a eu le débat sur le retour de l'ISF qui, pour l'instant, a été mis de côté. Mais en même temps, l'ISF, ça rapporte effectivement 5 milliards d'euros. Donc, c'est quand même une goutte d'eau par rapport à tout ce qu'il va falloir payer. Nous verrons. Ce qui est intéressant,
on a assez peu de chances de passer à côté.
C'est compliqué à dire. Ouais. Il y a une chose qui est certaine, c'est que il y a déjà eu une conséquence sur la fiscalité, c'était sur la CRDS, qui est une contribution qui est prélevée sur tous les revenus, qui sert à rembourser la Sécu. Elle devait être supprimée en 2024, et évidemment, le gouvernement envisage de la prolonger jusqu'en 2033.
Début de réponse. Merci beaucoup, en tout cas, Sébastien Lernoux. Merci à vous, Vital Saint-Marc, d'avoir répondu aussi aux auditeurs. Dans un instant, Émilie Mazoyer, avec musique, 20h, une invitée de marque ce soir. Un invité, M. Alain Chamfort. Et le concert, ce sera celui d'In Excess. Oh là 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 là. 91, hein, ça nous emmène très très loin. On a adoré ce morceau. Allez, c'est Émilie Mazoyer qui reprend la main. L'info revient demain dès 18h pour votre grand journal du soir. Et pour écouter ensemble Le Monde Changé. Très belle soirée à tous. Merci. C'était Nathalie Lévy sur Europe 1.
Europe 1.